Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que t'as regardé la finale de la Ligue des Champions? Hein? Pourquoi faire? Sûr que non. Bonsoir tout le monde. J'adore ton t-shirt. Vous avez vu? Los Republicanos. Bon, par contre, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi, j'ai pris le t-shirt sport. Vous me connaissez. Pourquoi je prendrais un t-shirt sport? Je sais pas. Et du coup, je sais pas, il est un peu shiny. Salut Nico. GG pour ta qualif à l'ascension. Ouais, merci Nico, merci. Je réfléchis à installer le jeu pour commencer à préparer, mais je pense que j'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Pour le skate. Ah, ça doit être ça, ouais. Surf, skate, t'es sportif. Ah ouais. Ah non, mais j'ai déconné. Non, parce qu'en plus, là, on dirait pas, mais je suis blessé. Non, mais en fait, là, j'étais chez le médecin cet après-midi. C'est pour ça que j'ai pas pu faire le stream de la motion de censure. À la base, je voulais le faire, mais j'avais trop mal. Donc, j'ai pris rendez-vous chez le kiné. J'ai pris rendez-vous chez le kiné. Donc, j'étais chez le kiné. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai une inflammation d'un muscle du dos. Ça me fait une douleur de chien. Et voilà. Encore les croisés, évidemment. Bah évidemment, évidemment, c'est donc la fin de ma carrière de skater pro. Non, non, mais je me suis fait super mal. Et en plus, je me suis fait mal en dormant. Genre, tu sais, c'est même pas le truc où... Ouais, j'ai fait du skate, je suis tombé. Non, non, pas du tout. Juste, j'ai dormi dans une position random. Et je me suis réveillé avec un mal de chien. Il y a genre une semaine, je me suis dit, ça va passer, c'est bon. Et en fait, pas du tout. Ça fait trop mal. Du coup, je suis sous anti-inflammatoire. Voilà quoi. Lequel il y en a plein. Mais en plus il y en a plein, mais c'est trop bizarre. Et en plus du coup j'ai mal. Genre par exemple je peux pas tourner la tête plus que ça, parce que sinon j'ai très très mal. Pareil dans l'autre sens. C'est un muscle du cou qui active je sais pas quoi. J'y comprends rien. Et du coup j'ai mal dans certaines positions quand je... C'est trop chiant de trouver une bonne position pour dormir parce que ça fait mal, un mal de chien et tout. Du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Du coup je suis sous anti-inflammatoire et je suis allé chez le kiné, mais c'était la première fois de ma vie que j'allais chez le kiné. En plus j'avais oublié, je me souvenais plus, j'étais en mode attends c'est lequel entre le kiné et l'ostéo, c'est lequel le charlatan, je sais plus. J'ai oublié. Attends, non mais je confonds à chaque fois. Il y en a un des deux, c'est un mec qui a fait des... c'est un peu sérieux et l'autre c'est n'importe quoi. Et j'ai demandé à Google. Je fais, ah oui, c'est ça. Faut aller chez le kiné. Faut aller chez le kiné, pas chez le charlatan. L'ostéo, c'est le charlatan. Voilà. Du coup, je suis allé chez le kiné. Voilà. Le chiropracteur. Ah oui, c'est encore pire le chiro. Ah oui, le chiro, c'est encore pire, il paraît. Moi, j'y comprends rien. Moi je savais pas, j'étais en mode non mais moi je veux un truc sérieux s'il vous plaît, me parlez pas de trucs holistiques machin, je veux juste un spécialiste qui regarde. Et voilà, donc il a regardé, il m'a dit oh, pff, vous inquiétez pas, c'est musculaire, il y a pas de danger, il y a pas de red flag, ça va finir par passer. Anti-inflammatoire, continuez, pas de souci. Naturopathe, j'aurais dû aller voir un naturopathe, c'est vrai, j'aurais dû aller voir un naturopathe. Par acquis de conscience, j'ai demandé à Doctissimo ce que j'avais. Apparemment, c'est à cause du vaccin Covid. Visiblement. Visiblement, c'est le vaccin Covid qui cause mon malheur. Oh merde, encore lui. Oh putain, c'est terrible. Bon. Du coup, j'ai dit c'est trop tard, je l'ai déjà fait, donc je peux pas revenir en arrière. Du coup, je suis allé chez le kiné. Merci Loulouxette qui offre un sub à Nico, incroyable, très gentil de ta part, merci beaucoup. Le fameux cancer du vaccin, ah ouais. Ah bah c'est le cancer du vaccin, c'est terrible. Hein. Donc voilà. Donc là je suis allé chez le kiné, du coup j'ai un mal de chien, ça me saoule, je peux pas bouger. En même temps, je suis pas du genre à faire beaucoup de mouvements, hein. Enfin, on va pas se mentir. Moi je suis pas majeur mouvement. Hein. Je suis pas majeur mouvement, je suis minor. Je suis mineur, resté assis. Voilà. Bon, mais du coup, est-ce que vous avez regardé le live de skate avec Kenny vendredi? C'était trop bien. C'était trop trop bien. Major flemme, voilà ça, major flemme, major immobilisme. Minor statique. On a regardé ta full Smurf. En vrai, c'était trop trop bien. Merci encore à Kenny. Le live était trop trop bien fait. La musique, c'était trop bien. Les skaters, c'était trop bien. Vite fait, ouais, t'en as déjà fait. Bah, en fait, moi, du skate, j'en avais fait, mais il y a très longtemps, il y a genre 15 ans. J'ai fait du skate pendant des années quand j'étais ado. Et je suis pas remonté sur un skate depuis 1000 ans. On avait refait du skate ensemble au The Event avec Kenny, vous vous en souvenez. C'était très cool. Moi, j'avais adoré cette session skate avec Kenny, mais c'était vraiment la première fois que je remontais sur un skate. Et là, du coup, bah, vendredi, ouais, skate au skatepark de Gerland à Lyon. C'était trop bien. J'étais trop content. Ça s'est trop bien passé. J'étais chaud. J'ai fait des trucs que je m'attendais pas à réussir à faire et tout. Et donc, ça m'a fait trop plaisir de refaire du skate. Par contre, je suis vraiment pas sportif, hein. J'ai absolument tous les muscles du corps qui ont oublié comment on fait pour travailler. Du coup, en plus, je fume des clopes, donc je suis essoufflé. Au bout de 5 minutes, je transpirais. Je suais comme un goré. Va voir le kiné, du coup. Ah, bah, le kiné, il va juste me dire, faut travailler, monsieur, hein. Waouh, 5 subs, merci beaucoup.
Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, Doidou, pour tes 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Incroyable. Ça fait trop plaisir, merci. Est-ce que t'as vu l'annonce de Flight Simulator 2024? Oui, j'ai vu. Alors, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils annoncent un nouveau Flight Simulator basé sur l'ancien? C'est pour qu'on repaye 70 balles, c'est ça? Je comprends rien. J'ai pas compris le move. Je comprends pas. J'ai vu que ça a l'air très cool parce qu'ils proposent plein de trucs et tout, des missions et tout. Je dis, mais c'est très bien, mais à ce moment-là, mettez à jour l'autre. Ou faites des DLC, j'en sais rien. Bon, après, la dernière fois qu'ils ont fait des DLC, ça s'est mal passé parce qu'ils nous ont sorti les courses de Renault, mais c'était tellement cher que juste personne l'a installé. Scandaleusement cher. Je pense que c'est juste une grosse mise à jour. Non, bah très bien, mais. En fait, ce que j'ai cru comprendre, mais peut-être que je me trompe, hein, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on va devoir juste acheter et installer un nouveau jeu. Mais c'est Flight Simulator, enfin, on va pas réinstaller des jeux à chaque fois que vous faites une mise à jour, c'est quand même trop bizarre. Faites des DLC comme tout le monde. En plus, ils en font déjà. Il y a la boutique. Il y a la boutique dans Flight Simulator, c'est très bien la boutique. Bah, mettez-nous dans la boutique des missions, des trucs, des appareils, des machins. Je sais pas, je comprends rien. Écoutez, faites ce que vous voulez. T'es comme FIFA. Non, mais FIFA, ils mettent à jour le jeu chaque année. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des. Ouais, non, les stats et tout, je veux bien comprendre. Non, je sais pas. Après, l'update graphique a l'air assez énorme. Ouais, c'est possible. Donc. Ça fait 4 ans déjà le dernier. Je crois qu'ils vont porter tous les add-ons sur la version 2024. Bah, il y a intérêt, ouais. Ah, bah, il y a intérêt, hein. Alors, ça, sinon, je vais gueuler, hein. Les montgolfières, c'est super, un truc où il n'y a rien à piloter. Ouh, détrompe-toi! Les montgolfières, il faut naviguer, c'est pas facile. Ah non, attends. Attends. Non, ça va être intéressant. Non, non, mais on a plein de trucs à essayer, moi je suis content. De base, je suis content, il y a des nouveaux contenus, je suis toujours content sur Flight Simulator, mais je comprends pas le move de sortir un nouveau jeu. Genre, mais pourquoi? Vous avez travaillé 10 ans pour sortir le jeu d'avant, qui est déjà très bien, vous pouvez le mettre à jour autant que vous voulez. Pour des raisons pécuniaires. Non mais ça change rien ça. Ça change rien. Vous pouvez sortir des DLC pour l'ancienne version, ça marche aussi, hein. Vous pouvez nous faire payer des DLC si vous bossez dessus et tout. Moi j'ai pas de problème avec le fait qu'on nous fasse payer pour des DLC quand ils sont développés, que c'est proposé aux gens qui veulent s'y essayer, etc. Pff, très bien. Moi les courses de Renault, je l'ai jamais installé parce que je trouve ça trop cher par rapport au truc que ça propose, c'est tout. Mais c'est le principe d'un DLC, quoi. S'ils ont fait évoluer le moteur graphique, ils n'avaient pas le choix. Alors, si c'est une évolution majeure du moteur graphique, là, peut-être. Il va falloir m'expliquer. Bon, ok, peut-être. Stream Flight Simulator avec JDG, il a l'air chaud. Ah, moi, je suis chaud, hein. Une sortie, ça marche mieux médiatiquement. Ouais, peut-être. Mais ils ont déjà fait des DLC qui ont bien marché médiatiquement. En plus, ils avaient fait un DLC pour la sortie de Top Gun. C'est quand même plutôt pas mal. Je sais pas. Écoutez, on verra. On verra, on verra, on verra. Bah, c'est bien, ça va me permettre de m'y remettre parce que mine de rien, ça fait un bout de temps là, avec toute la réforme des retraites. Ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à Flight Simulator. Ça va être l'occasion. Nouveau moteur physique pour les nouvelles activités, du coup conflit avec la version d'avant. Bah j'espère que c'est justifié par ça, ouais. On parle politique. Attends, pas tout de suite! Ça fait que 10 minutes que j'ai lancé mon live. Non, non, attends, on va faire une revue d'actu, on va lire des articles vers 19h30, tranquille. On va lire plein d'articles, mais avant, je voudrais savoir comment vous allez. Est-ce que vous passez un bon lundi? Est-ce que vous avez chaud? Parce qu'ici, il fait chaud sa mère. Hein. Ça permettra de remettre à jour ta photo de profil Twitch. Ah oui, il faudrait que je le fasse ça un jour. D'abord, on parle Potichat. Ah, l'eau Potichat! Alors, l'eau Potichat va bien. L'eau Potichat va bien. L'eau Potichat, elle est rentrée dans une nouvelle phase. Elle est rentrée dans la phase. C'est pas encore la phase de curiosité. Parce qu'elle est encore un peu flippée. Mais c'est la phase de. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, l'humain? Parce qu'avant, c'était. Il est là, donc dans le doute, je me reste caché. Maintenant, c'est il est là. Mais je sors pour tendre l'oreille pour savoir s'il est toujours là ou pas. Donc, elle n'a pas encore la curiosité d'aller vers, elle est encore flippée de ouf, mais il y a des, je suis trop content en vrai parce qu'il y a des échanges de regards. On commence les moments d'échange de regards. En gros, je vous explique. Avant, quand j'étais dans ma chambre et que je dormais ou que je bougeais pas, que je regardais des vidéos dans mon lit, etc., elle faisait pas un bruit. Enfin non, elle faisait pas un bruit, c'est pas ce que je disais. C'est quand moi je faisais pas un bruit, elle sortait, elle se mettait un petit peu dans l'entrée, là assise tranquillement, et puis elle, voilà, elle restait là, elle restait assise, elle s'allongeait un peu, etc. Et surtout quand elle m'entendait me lever de mon lit, elle se barrait direct, illico. Donc le temps que je me lève de mon lit et que j'arrive devant dans la porte, elle était partie. Merci beaucoup à la personne anonyme qui a offert 5 subs au chat, merci beaucoup.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, merci pour les 5 subs offerts au chat, merci beaucoup. Donc du coup, avant, le temps que j'arrive dans l'entremise de la porte, elle avait déjà disparu, donc je la voyais jamais. Voilà. Maintenant, quand elle m'entend me lever de mon lit, elle a peur, mais elle part pas tout de suite. Elle reste dans l'angle de vision de la porte, comme ça, pour me voir passer. Ce qui me permet du coup d'arriver dans la commissure dans la porte, quoi. On dit pas la commissure, on dit quoi? C'est quoi le bon mot? C'est quoi le mot scientifique? Je sais plus. L'embrasure? L'interstice? L'embrasure. Ah, c'est l'embrasure! C'est l'embrasure de la porte. Merci beaucoup. L'entrebâillement. Non, l'entrebâillement, c'est quand la porte est entrebâillée. Là, c'est là, elle est grande ouverte. Hein. Toutes les portes de chez moi sont ouvertes tout le temps pour qu'elle puisse se balader si elle veut. Justement, le but, c'est qu'elle se balade au maximum, donc je laisse tout ouvert. Et donc, du coup, maintenant, elle reste dans la pièce d'à côté, loin de moi, mais il y a des jeux de regard, donc je la regarde. Je peux m'asseoir par terre et on se regarde pendant 4-5 minutes. Elle reste là. Elle me regarde. Donc ça c'est cool. Bon après dès que je me relève parce qu'il y a un moment j'en ai marre, j'ai envie d'aller pisser, là elle se barre en courant parce que je me lève donc du coup elle a peur. Mais donc voilà, on arrive dans les jeux de regard. Et l'autre truc qui est cool c'est que cette nuit elle s'est posée sur le canapé qui est là, mais elle s'est posée à un endroit du canapé qui lui permettait de me voir dormir dans ma chambre. Comme les portes sont ouvertes, elle était au bon angle pour me... J'étais là à 3 mètres d'elle en train de dormir. Et elle était posée sur le canapé, elle pouvait me voir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle... Ça veut dire qu'elle veut me voir. Donc on progresse. Ça avance. Ça avance, ça avance. Donc je vais continuer au maximum à faire des jeux de regard avec elle, à me mettre là, m'asseoir par terre, la regarder, lui dire je suis là, t'inquiète, je bouge pas, tu peux venir si tu veux. Voilà quoi. T'as l'air super tranquille, perso je flippais un peu au début. Ah mais moi je flippe pas du tout, mais elle me fait pas peur. Hein. Visiblement c'est elle qui a peur. Hein. C'est toujours comme ça quand on adopte un nouveau chat. Non, non, ça dépend beaucoup des chats. Ça dépend beaucoup des chats. Hein. Il y a des chats qui sont craintifs par nature. Il y en a d'autres qui sont complètement rien à foutre. Bah, t'as déjà croisé un chat dans la rue. Il y a des chats, ils ont absolument pas peur des humains. Hein. Il y a des chats dans la rue, ils t'approchent, ils en ont rien à foutre, ils ont pas peur. Il y a des chats, t'arrives chez un ami, il a un chat, il s'en fout, il continue à dormir, il t'entend même pas, ils ont rien à foutre que tu existes ou pas. Et puis il y a d'autres chats qui ont très très peur des humains, qui se tiennent le plus éloigné possible, qui restent cachés le plus longtemps possible et tout, voilà. La mienne, elle est tout de suite venue en mode tu es mon papa. Ouais, voilà, tu vois. Il y a des chats très différents. Il y a des chats qui passent leur vie dans le placard ou plus le lit. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu lui donnes des friandises des fois? Alors, j'ai pas trouvé les friandises qu'elle aime bien. J'ai essayé des friandises, mais ça lui parle pas. Là, je lui donne du. Par contre, elle aime beaucoup la pâtée. Donc, je lui donne des pâtés et j'essaye de mettre la pâtée pas très loin de moi pour qu'elle puisse manger près de moi. Bon, le problème, c'est qu'entre le moment où je mets la pâtée et le moment où elle vient la manger, il y a quand même 1 heure ou 2. Donc, en général, je m'endors. Donc, je mets la pâtée pas loin de mon lit. Comme ça, elle vient manger pendant que je dors. Mais bon, elle mange à 1 mètre de moi, du coup. Donc, je suis content. Je me dis, bah voilà. Il y a des friandises liquides en tube, les miens adorent. Ouais, il faut que j'achète ça. J'ai vu ça, les friandises liquides, ouais. Ouais. Ça pue pas trop? Ah si, ça fouette. Ah si, pas si. Il y a littéralement un bol de pâté dans ma chambre pendant la nuit, ça sent la pâté. Donc bon, ça avance petit à petit. À mon avis, ça va avancer par étapes. Ah putain, j'ai mal au cou, c'est horrible. J'ai si mal. Donc là, par exemple, j'ai commencé mon stream il y a quoi, 10 minutes. Je vais aller regarder sur la caméra pour voir si elle est sortie de sa cachette ou pas. Je pense pas. En même temps, il fait frais sous l'évier, donc je comprends qu'elle y reste. Non, elle est pas sortie, elle est toujours là. Donc je pense que petit à petit, elle va commencer à venir pendant que je stream dans l'embrasure de la porte qui est là. Tranquillement, s'asseoir, me regarder, avoir un peu peur et tout. Puis petit à petit, elle va s'approcher. Et puis voilà. Puis un jour, peut-être que vous la verrez passer derrière là. J'aimerais trop que vous la voyiez passer derrière au fond là-bas. Genre l'air de rien. Elle a pas trop chaud, les miens s'allongent sur le carrelage de la salle de bain. Bah la mienne du coup j'en sais rien, elle continue à aller dans le. Pour l'instant elle a pas changé son comportement avec la chaleur. Donc bon. Franchement le jour où on la verra en stream ça va être exceptionnel, ça va être fou, j'ai trop hâte. Elle montera sur tes genoux un jour. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Moi j'ai une théorie comme quoi il a pas de chat et c'est une tactique pour augmenter les vues. T'imagines, il nous ment. En fait, il a pas de chat. Il raconte n'importe quoi. Il a monté un arbre à chat juste pour faire semblant d'avoir un chat, pour juste gagner de la sympathie des internautes. On vous connaît, monsieur Massier. C'est moche ce que vous faites. Un vrai politicien. Mon chat commence à me demander des câlins au bout de 2 ans. 2 ans, c'est long. La première fois qu'elle va venir te réclamer quelque chose en miaulant, tu vas être ému. Bah, tu sais, quand je l'ai adoptée, elle a miaulé une fois. Moi, j'étais content. Je l'ai entendu miauler, donc j'étais plutôt content. Parce que j'ai cru comprendre que les chats ne miaulent que pour s'adresser aux humains. Les chats entre eux, ils miaulent pas hein, pour se parler. Pas besoin de miauler. Donc les chats qui miaulent, le miaulement, c'est une imitation de la voix de l'être humain pour attirer l'attention des humains. Donc je me suis dit, c'est bien. Mais depuis, elle a plus jamais remiaulé. Donc bon. Ça fait combien de temps maintenant? Ben, ça va faire 3 mois et demi maintenant. Hein. On est le 12 juin, ouais. C'est un peu du bullshit, ça, non? Ah bon? T'es peut-être pas un humain. Je suis peut-être pas un humain, c'est possible. C'est un peu faux, ça. Ah, c'est possible que ce soit faux. Je sais pas, on m'a dit ça. C'est carrément faux. Ah merde. Bon, ma théorie s'effondre. Quand ils se fight, ça miaule de ouf. Ah non, ça miaule pas, ça crache. C'est pas pareil. Un chat qui feule, un chat qui crache et tout, c'est encore autre chose. Les chats qui font. C'est pas un miaulement, ça. Non, ils font des gros miaulements vénères. Et ça, c'est pas un miaulement, c'est un grognement. Oh, vous confondez tout. Il y a des feulements, il y a des grognements. Les chats qui... Parce que, attendez, 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 excusez-moi, faut être précis. On fait de la linguistique là, faut être précis, les mots qu'on utilise sont importants. Le feulement, c'est quoi par rapport au chat qui crache? Pour moi, un chat qui crache, c'est les chats qui font comme ça quand ils ont très peur et qui sont agressifs et tout. Ça, pour moi, j'appelle ça un feulement. Peut-être que c'est pas ça, hein. Les grognements, c'est quand ils font pareil, quand ils ont peur, quand ils sont en train de se battre, etc., qui font des... qui... Ça, pour moi, j'appelle ça un grognement. Et un miaulement, bah, c'est miaou, quoi. Un feulement, c'est quand ils font... Oui, donc c'est ça. C'est un chat qui crache, mais c'est pas un grognement. Quand ils gonflent leur queue, là, enfin, bref. Je comprends rien. J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Tu fais bien le chat qui grogne. Oh merde. Il se grogne dessus, mais pas miaulement. Oui, ça, oui, les chats qui se battent, ils. Les chats qui se battent, ils grognent, ils feulent, mais ils miaulent pas particulièrement. Ou alors, ils... ouais, ils font miaou. Je sais pas, je comprends rien. Ça grogne pas un chat. Ah, donc le mot grognement est pas bon. Bon, bah c'est pas un grognement alors. Et quand ils font, je vous demande de vous arrêter, ils baladurent. On appelle ça baladurer. C'est un type de cri très particulier. C'est mon premier stream de Backseat, c'est pas le débat auquel je m'attendais. Alors là, c'est pas Backseat, hein. Backseat, c'est autrement mieux. Là, c'est juste une revue d'actu qui commence par un point vocabulaire. Comment ça, ça grogne pas un chat? J'ai un chat à la maison, je vous confirme qu'elle grogne. Ah si, si, les chats, ça grogne. Bon, bah, on est d'accord. Chez eux, le regard, c'est important. Si tu la regardes dans les yeux, cligne, ferme un peu les yeux pour lui faire comprendre que t'es pas une menace. Oui, ça, on m'a dit. Ça, c'est la technique du clignement. Ouais, je fais ça, je fais ça. Quand on se regarde, je la regarde pas tout le temps. Parfois, je regarde à côté. Parfois, je regarde mon téléphone. Et quand je la regarde, j'essaie de cligner des yeux lentement pour qu'elle comprenne que t'inquiète. T'inquiète, je vais pas te feuler dessus. Oui, fixé, c'est un comportement de prédateur. Ouais, c'est ça, le fixé, c'est un comportement de prédateur, ça je sais, ouais. La femelle en chaleur, elle miaule à fond, elle attire le mâle. Oui, c'est ça. Le miaulement, c'est un cri de demande. Un chat qui miaule, c'est un chat qui demande quelque chose. Il demande à rentrer, il demande à sortir, il demande à bouffer, il demande, je sais pas, des caresses, de l'attention, j'en sais rien. Il demande des votes. Demande à baiser, oui, en gros, oui. Il demande la retraite à 60 ans. C'est donc ça, depuis le début. Putain. Et on en parle des chats qui roucoulent. Non, un chat, ça roucoule pas, ça ronronne, qui est un bruit respiratoire quand ils sont apaisés. Go miauler en manif. Ah si, ça roucoule les chats. Ah bon? C'est ça quand... roucouler, c'est quand ils font les petits bruits comme ça. Ça c'est un roucoule? Un roucoulement? Un roucoulage? Une roucoulation? Ouais, c'est ça, c'est ces petits cris-là, là. Ça, j'appelle ça roucouler. D'accord, ok. La fourmi, ça croonde. Oui, ça, la fourmi, ça croonde, ça tout le monde le sait. ça caquette aussi pour les oiseaux. Ah oui, oui, ça j'ai déjà vu, les chats qui ça s'appelle caqueter. Quand ils font... Ils essayent d'imiter le bruit des oiseaux. J'arrive pas à le faire. Ok les enfants, donc aujourd'hui, on a appris les différents bruits du chat. Les chats, ça feule, ça grogne, ça miaule, ça ronronne, ça caquette, ça roucoule, ça réclame la retraite à 60 ans. voilà. Et ça baladure. Et ça baladure de temps en temps. C'est rare, mais ça peut baladurer, oui. Bon bah on a fait la liste, c'est bien. Bon, pour l'instant, moi, mon chat à moi il fait rien de tout ça. Hein. Pour l'instant, mon chat à moi il se balade dans l'appart quand je suis endormi. C'est à peu près tout ce qu'il fait. Je regarde, est-ce qu'elle est sortie? Non, elle est pas sortie. Eh le petit. Ah putain, j'ai mal au cou. Eh le petit chat, tu peux sortir s'il te plaît? C'est pour faire des vues. C'est pour générer de l'engagement sur internet. Merci, hein. Bon, on verra. Ah putain, j'ai mal au dos. Ah, c'est horrible, cette douleur est horrible. Les anti-inflammatoires, c'est nul. Elle a pas un nom plutôt que petit chat. Alors, elle a un nom qui s'appelle, elle s'appelle Zara, mais son surnom c'est Lopotichat. Lopotichat. C'est Lopotichat, voilà. C'est son surnom. Le chaud, ça soulage pas les douleurs du dos. Bah j'ai essayé, la pharmacienne, elle m'a vendu des patchs de chaleur là. Problème c'est qu'il fait tellement chaud que ça se décolle, c'est chiant, j'arrive pas à le mettre en plus parce qu'évidemment j'ai une douleur inflammatoire pile poil à l'endroit où t'arrives pas à mettre ta main dans ton dos. Donc pour mettre de la crème c'est un enfer, pour mettre le patch c'est pareil, j'ai essayé, ça se décollait, c'était chiant. Trop relou. Bouillotte, ouais non mais bouillotte, je vais mettre à transpirer et tout. Franchement l'homéopathie c'est top, ouais je pense qu'il faut que je prenne de l'homéopathie. Pour où j'en suis, je pense qu'il faut que je prenne de l'homéopathie. Il faut que j'utilise un aspivenin pour essayer de récupérer le vaccin Covid. Est-ce que 3 ans après le vaccin, on peut retirer le vaccin avec un aspivenin? Tu connais l'urinothérapie? Ah oui, c'est vrai, il y a l'urinothérapie aussi. Attends, pas plus de 12 mg par mètre cube d'eau, sinon c'est dangereux. Faut des manettes pour les anticorps. Ah oui, faut mettre des aimants. Faut mettre des aimants sur sa peau pour attirer les puces 5G du Covid, du vaccin. Putain, j'avais oublié cette période-là. Vous vous souvenez de cette époque-là? Ah, on a vécu. Vous vous souvenez, c'était pendant la guerre. La guerre du Covid, hein. C'est pas, voilà, pas la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Covid, donc la dernière guerre. Pendant la guerre, il y avait des gens qui faisaient des stories. Qui faisait le buzz, où il montrait qu'il pouvait se mettre des aimants sur la peau et que c'était bien la preuve que dans le vaccin il y avait du fer et qu'ils étaient devenus magnétiques, qu'il y avait des éléments magnétiques dans le vaccin. Non, parce que là on rigole, mais à l'époque on parlait que de ça, faut dire qu'on se faisait chier. Hein. On était en plein confinement, on s'emmerdait et sur internet on avait à peu près que ça. On s'emmerdait. Hein. Oh. Heureusement que je streamais, hein, parce que sinon le confinement aurait été très dur à vivre. J'ai loupé ça, putain ça devait être drôle. T'as vraiment loupé ça, tu te souviens pas? Non mais bien sûr que... Ah putain j'ai mal. Bien sûr que vous vous souvenez de cette grande époque du débat politique français où il y avait Didier Raoult qui faisait la une d'absolument tout le temps parce qu'on avait que ça à se foutre sous la dent. Vu que personne n'avait de solution, personne n'avait de vaccin, du coup il suffisait d'un professeur tournesol, un chevelu un peu fou, marseillais, un peu charismatique... Il y avait des députés qui faisaient des vidéos pour dire « Moi, je crois à la solution hydroxychloroquine du professeur Raoult. » Il y avait des députés qui disaient ça. Il y avait un débat national pour ou contre l'hydroxychloroquine. Il y avait le Figaro.fr qui faisait des sondages. Croyez-vous à la solution miracle du professeur Raoult? Et il fallait qu'on se prononce. Hein. Il fallait avoir un avis. Hein. À l'époque, il fallait avoir un avis. Hein. Si tu n'avais pas d'avis sur le sujet... Alors, c'était un grand moment. Hein. Bon, après, on a eu des débats. Vous vous souvenez, hein, on a eu des débats nationaux pour savoir... quels sont les commerces essentiels et les commerces non essentiels? Ça aussi, ça nous a occupé au moins 3-4 semaines. Hein. Commerce essentiel, non essentiel, ça c'était très important. Le fait de faire du sport, est-ce qu'on a le droit de mettre sur son attestation qu'on va faire du sport? Voilà. La bamboche. Ah oui, les bamboches. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a eu aussi toute la période, c'est à cause des jeunes, si les vieux meurent. Ça, il y avait aussi toute la période, les jeunes, c'est à cause d'eux, si les personnes âgées meurent, parce que les jeunes, ils sont irresponsables, ils font la fête, et je suis sûr qu'ils baisent aussi un peu. Donc ça, ça, on a eu tous les articles de journaux, etc., sur les jeunes, c'est un peu de leur faute. Ouais, ça, je me souviens. Chalençon, il y avait Pierre-Jean Chalençon aussi, on a oublié Pierre-Jean Chalençon, cette légende. Non mais faut pas qu'on oublie tout ça, hein. On a vécu des grands moments d'histoire ensemble. Hein. Oubliez pas, hein. On a vécu des grands moments d'histoire ensemble pendant le Covid, hein. On a fait des streams extraordinaires. Hein. Ah ouais, il y avait Pierre-Jean Chalençon, c'était le débat national sur Pierre-Jean Chalençon, sur les restaurants secrets. pendant les grandes heures de la prohibition là, il y avait les... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelait les cafés, les bars interdits pendant la prohibition? Ça s'appelait les... ah merde. Les speakeasy, voilà. On avait des speakeasy en France. C'était les bars un peu interdits. C'était les restaurants un peu interdits. En plus, ça avait l'air dégueulasse au restaurant. C'était vraiment la cuisine présomptueuse possible, à grand renfort de truffes, de crevettes, de champagne et tout. Genre, oh arrête, c'est dégueulasse. Non, t'es chiant là. Il y avait la réouverture des bars, mais uniquement si t'es assis dans le bar. Il y avait les bars où t'avais pas le droit d'être debout, ça je me souviens aussi. On s'est bien marré tout de même. Ah bah faut essayer d'en garder un bon souvenir, hein, parce qu'il y avait à peu près que ça de drôle. Hein. Le résultat, c'était pas marrant. Enfin, je vous rappelle que, je sais pas vous, mais moi j'ai perdu des proches qui sont décédés du Covid. Non, il y avait quand même des morts et tout, c'était pas marrant. Hein. Et quand même, ça faisait flipper tout le monde. L'état de santé mentale des jeunes s'est effondré, c'était un cauchemar. La précarité a explosé. Non mais heureusement qu'on a gardé les bons souvenirs aussi de ces débats complètement débiles. Hein. Hold Up, il y avait Hold Up évidemment, le documentaire Hold Up. Le grand documentaire Hold Up, avec l'interview du chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi qui t'explique ce que lui il en pense dans Hold Up. Oui, c'était après Hold Up. Oui, c'était après la guerre. C'était après guerre. C'était dans l'immédiat après guerre. Il avait dit quoi le chauffeur? Vous vous souvenez pas le chauffeur de taxi dans Hold Up? On avait essayé de regarder Hold Up ensemble en stream. C'était pas facile. Hein. On a arrêté au bout de 45 minutes parce qu'on a compris le principe. On s'est barré. Et le chauffeur de taxi qui disait... c'était un chauffeur de taxi, donc il disait des trucs de chauffeur de taxi. Hein. moi, je vais te dire. Hein. Ça sent l'entourloupe, cette histoire. Hein. Moi, je pense qu'il nous cache quelque chose là-haut. Hein. T'avais littéralement un chauffeur de taxi qui était filmé depuis le siège passager en train de dire des trucs de chauffeur de taxi et t'avais ça au milieu du documentaire. T'es en mode, ah ouais, d'accord, je suis vraiment en train de regarder ça là. Donc ouais, il y avait tous anti-Covid aussi l'application. Non, puis il y avait les allocutions télévisées d'Emmanuel Macron quand même. Vous vous souvenez? Macron qui nous dit nous sommes en guerre. Macron qui nous dit qu'il faut se laver les mains avec du savon. Macron qui nous dit qu'on va s'en sortir. Macron qui nous dit que finalement on va se reconfiner parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Les applaudissements à 20h, il y avait les applaudissements à 20h aussi. Antoine n'a jamais arrêté d'applaudir, mais il a trop raison, Antoine. Antoine qui applaudissait tout le temps. Il y avait le RPZ. Non, mais alors après, pendant ce temps-là, il y avait le RPZ, il y avait Among Us, il y avait Animal Crossing. Non, on a quand même eu des bons jeux hein, pendant le. Non, on a quand même eu des bons jeux pendant le confinement, faut reconnaître. Faut reconnaître, faut reconnaître. Valorant aussi, ouais. La pénurie de PS5, ouais, carrément. Doom Eternal qui est sorti pendant le Covid aussi. Les masques faits main pour compenser la pénurie qui ont été interdits ensuite. Oui, les masques imprimés en 3D, ouais. Et Decathlon qui offre des masques de plongée aussi dans les hôpitaux. Enfin bref. Bref. Donc je voulais vous proposer une petite revue d'actu politique pour qu'on se remette un peu dans le bain de l'actu en ce lundi. J'ai pas fait de stream depuis la semaine dernière. Du coup, il y a eu, ouais, c'est ça, il y a eu Backseat jeudi et le lendemain j'étais sur la chaîne de Kenny. Et ce week-end j'ai juste souffert du dos. Du coup, je voulais qu'on, parce qu'il s'est quand même passé un paquet de trucs entre les deux. Si on regarde un petit peu, il y a eu la terrible attaque à Annecy. Avec l'arrestation du principal suspect, etc. Mais c'est pas vraiment un événement politique, c'est un événement d'actualité qui a eu des répercussions politiques et encore pas tout à fait. On va en parler. Il y a eu le rassemblement de Bernard Cazeneuve qui a lancé son parti, la Convention, c'est le nom de son parti, pour essayer de rassembler les déçus du macronisme anti-NUPES. On va en parler. On a eu la motion de censure déposée par la NUPES, défendue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui n'a pas été adoptée. On pouvait s'y attendre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? La mort de Silvio Berlusconi, qu'on a appris aujourd'hui, effectivement, l'ancien président du Conseil italien. Silvio Berlusconi, très très grand homme politique italien, qui a marqué l'histoire des années 90-2000 de la droite italienne, qui a été au pouvoir pendant un bout de temps quand même. Berlusconi, qui était l'équivalent pour l'Italie de ce qu'était Nicolas Sarkozy pour la France, de ce qu'était Angela Merkel pour l'Allemagne. Avec évidemment son lot de scandales. Évidemment, Berlusconi était un personnage haut en couleur, on peut le dire comme ça, avec son lot d'affaires, de scandales, sur fond de pratiques sexuelles, de détournement de mineurs, sur fond aussi de pratiques politiques, hein, détournement d'argent. C'était un homme de médias également. Donc, ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans l'actualité? C'est une figure de l'extrême droite aussi à la fin. Bah, il a fait partie des artisans de l'alliance avec Meloni, hein, donc ça aussi, c'est pas à balayer d'un revers de main parce que son parti à lui, Forza Italia, c'était Forza Italia son parti, oui, est allié aujourd'hui au parti de Meloni. Donc voilà. Le début de la contre-attaque en Ukraine, ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Roland Garros, oui, bah, la victoire de Djokovic, est-ce que c'est une actualité politique? Je ne sais pas. La démission de Boris Johnson du Parlement britannique, est-ce que c'est une actu particulièrement intéressante en France? Je ne sais pas. Le discours de Ciotti sur Annecy. Alors le discours de Ciotti, puis même le positionnement global de Ciotti, parce que là, ça y est, ça commence à bouger un peu plus sérieusement du côté de la majorité d'Emmanuel Macron, qui souhaite de plus en plus ouvertement négocier un accord de gouvernement avec les Républicains, ou ce qu'il en reste. La loi immigration qui arrive, bah oui, la loi immigration qui arrive, et justement, les républicains, ils font monter les enchères. Bon, mine de rien, ça fait quand même pas mal d'actualités. Il s'est passé un paquet de choses. Qu'est-ce que je voulais vous proposer? Alors attendez, j'ai mis des articles de côté. Cazeneuve, on va se le garder pour après. Hop, 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 hop. Justement, t'as toute la stratégie Ciotti qu'on va essayer de discuter. Retraite, la motion de censure de la NUPES. Bah, tiens, on va peut-être commencer par ça. On va peut-être commencer par ça, un article court si vous avez raté cet après-midi. La principale actualité cet après-midi en politique, c'était l'examen à l'Assemblée nationale de la motion de censure qui avait été déposée par l'intergroupe de la NUPES à l'Assemblée nationale pour censurer, proposer de censurer le gouvernement suite à ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'on a largement déjà discuté, notamment sur le plateau de Baxit, à savoir le non-examen de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui avait été déposée par Liotte suite aux manœuvres du gouvernement et de la majorité, surtout de la majorité de la présidente Yael Braun-Pivet. Un déni de démocratie, comme le reprochent les députés de la NUPES, qui ont donc déposé une motion de censure contre le gouvernement pour dénoncer ces pratiques. Hop, 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 hop. La première ministre Elisabeth Borne échappe ainsi à sa 17e motion de censure depuis juin 2022. C'était la 17e fois qu'une motion de censure était déposée depuis l'année dernière. Les résultats étaient presque courus d'avance. Sans surprise, l'Assemblée nationale a largement rejeté ce lundi la motion de censure spontanée contre le coup de force antidémocratique du gouvernement, fin de citation, porté par la NUPES. Le texte, défendu par la socialiste Valérie Rabault, a recueilli 239 voix, bien loin de la majorité absolue de 289 voix, comme vous le savez très bien. Majorité absolue, donc qui est requise pour faire tomber le gouvernement. Au-delà des rangs de la gauche, seuls les 88 députés du Rassemblement National ont voté unanimement pour la motion de censure. Les bancs des Républicains sont quant à eux restés quasi déserts, aucun d'entre eux n'ayant pris part au vote. Je vous rappelle encore une fois que pour une motion de censure, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas non plus d'abstention, il n'y a que des votes pour. Donc on ne comptabilise que les votes pour, il n'y a pas de... on ne peut pas voter contre une motion de censure. Donc quand on n'est pas d'accord avec une motion de censure, on n'a rien à faire. On peut rester dans son bureau, on peut lire ses mails tranquillement, il n'y a pas besoin de lever la main pour dire qu'on est contre, on ne compte que les votes pour. Donc les bancs des Républicains sont restés déserts, aucun d'entre eux n'ayant pris part au vote. Même le groupe Liotte n'a pas soutenu l'initiative puisque seulement deux élus ont voté le texte. Donc même au sein du groupe Liotte, l'initiative de la NUPES n'a pas rassemblé... largement. Clairement, on voit la différence entre une motion de censure déposée par Liotte et une motion de censure déposée par la NUPES. C'est là qu'on voit l'utilité du coup du groupe Liotte. Le groupe Liotte étant un groupe plutôt centriste, voire centre-droit, c'est un groupe qui a la possibilité de réunir des votes, y compris des Républicains, sur ces motions. Là où la NUPES ne parvient pas à faire le plein de votes du côté des Républicains, ni même du côté de Liotte. Les députés du Rassemblement National pour l'instant sont constants dans la stratégie de Marine Le Pen, c'est-à-dire on vote toutes les motions de censure qui se présentent. Ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen, elle l'assume complètement. Que ce soit des motions de censure de Liotte ou des motions de censure de la NUPES, les députés du RN votent les motions de censure. Là où les députés de la NUPES font la part des choses entre les motions de censure qui viennent de Liotte, les motions de censure qui viennent de la NUPES et les motions de censure qui viennent du RN, les députés de la NUPES ne votent pas les motions de censure, même les autres motions issues du groupe d'extrême droite. Donc voilà, la NUPES a pourtant voulu marquer le coup après l'échec de la nouvelle tentative d'abroger la réforme à 64 ans la semaine dernière dans l'hémicycle. À la tribune, la députée du Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, a ainsi accusé l'exécutif d'avoir empêché le débat sur la proposition de loi du groupe Liotte présentée le 8 juin dernier. Valérie Rabault, si vous la connaissez pas, Valérie Rabault, c'est une députée socialiste qui avait été présidente du groupe socialiste sous la précédente mandature. C'est une députée socialiste très respectée à l'Assemblée nationale. Elle est vice-présidente d'ailleurs de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. Et Valérie Rabault, non, elle l'était, je crois. Elle l'est toujours ? Non, je crois qu'elle l'est toujours, pardon. Valérie Rabault, elle fait partie des députés très respectés parce qu'elle est très expérimentée et elle est un peu l'équivalent à gauche de Charles de Courson dans la compétence, dans la commission des finances. C'est une personnalité assez unanimement reconnue à l'Assemblée nationale et très respectée, Valérie Rabault. Et sur son positionnement politique, Valérie Rabault, elle est connue pour être pas très très proche d'Olivier Faure. Valérie Rabault, elle est pas très très sur la ligne NUPES. Elle est socialiste, totalement socialiste et 100% socialiste, mais elle n'est pas proche d'Olivier Faure, elle n'est pas proche des Insoumis, elle n'aime pas trop la NUPES. Pour autant, c'est elle qui a été choisie. Carole Delga, ouais, c'est ça, plutôt proche de Carole Delga, quoi. Et donc Valérie Rabault, elle. Merci Jérôme pour ton prime. Et donc Valérie Rabault, c'est elle qui a été choisie pour défendre, justement comme c'est une députée plutôt modérée, c'est probablement une des raisons pour lesquelles elle a été choisie pour défendre la motion de censure, de manière à essayer de garantir un maximum de votes du groupe Liotte, voire des Républicains, mais visiblement ça n'a pas suffi malgré son talent, unanimement reconnu. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ayant jugé irrecevable financièrement les amendements qui visaient à rétablir la retraite à 62 ans. Depuis le 8 juin, c'est le règne de la recevabilité partisane sans voie de recours, a fustigé Valérie Rabault, dénonçant un grave précédent. Avant d'enjoindre ses collègues de l'opposition à mettre un terme au discrédit que jette la Première ministre sur son gouvernement et son gouvernement sur la Chambre basse. La Chambre basse, c'est le surnom que l'on donne à l'Assemblée nationale dans le système bicaméral. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de surprise, hein, je vous avais déjà expliqué tout ça, la recevabilité. Vous êtes à jour, il n'y a pas de sujet, c'était la semaine dernière. Un refrain presque habituel pour Elisabeth Borne, confrontée à sa 17e motion de censure depuis les élections législatives en juin 2022, chahutée par les bancs de la NUPES lors de sa prise de parole, cette dernière a notamment tenu à les remercier, avec ironie, d'avoir permis aux Français déjà à 16 reprises de constater qu'il n'y a pas de majorité alternative au gouvernement. Effectivement, Elisabeth Borne n'a pas tort de constater qu'il n'existe pas de majorité alternative à son gouvernement à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne qui a aussi parfois la lucidité de reconnaître qu'elle-même n'a pas de majorité non plus. Donc en gros, on reste sur le statu quo, pas de changement par rapport à d'habitude. Le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais les oppositions non plus n'ont pas de majorité alternative à proposer. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Business as usual, on continue. Et d'ajouter à Serbe, certains ici semblent convaincus que le courage politique, c'est une opposition vocale caricaturale totale. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels. Là aussi, pas de surprise, Elisabeth Borne qui s'en prend au caractère très tumultueux de l'opposition, notamment d'une partie des députés insoumis dans l'hémicycle. Là aussi, rien que du classique. Alors que les rumeurs de remaniement la placent sur la sellette, la Première ministre a d'ailleurs profité pour faire valoir son bilan. Les majorités se nouent, les textes sont votés. Nous avons trouvé des accords sur les solutions pour des sujets majeurs comme la sécurité de nos concitoyens, a-t-elle plaidé, appelant à poursuivre cette force collective. Elle fait référence à la loi de programmation militaire qui a effectivement une majorité. On peut citer aussi les lois pour le pouvoir d'achat de l'été dernier, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, le texte sur les éoliennes. Il y a des majorités à l'Assemblée. Mais pas sur les textes majeurs du gouvernement. Donc là aussi, c'est difficile pour Elisabeth Borne de dire qu'elle parvient à trouver des majorités, parce que certes, elle parvient à en trouver, mais sur des textes tellement pas centraux. Alors, c'est jamais des textes inutiles, c'est des textes sur des éléments qui sont pas centraux d'un cap politique pour un gouvernement, mais qui ont quand même leur importance. Voilà, loi de programmation militaire, pouvoir d'achat, etc. Bon. Mais réforme des retraites, ça, c'est une réforme d'ampleur. Et là, il n'y a pas de majorité. Y aura-t-il une majorité sur la loi immigration? C'est une excellente question, on en parle juste après. Après ce nouvel échec, l'exécutif peut enfin espérer tourner la page des retraites. Une autre pourrait toutefois s'ouvrir dès septembre prochain avec l'examen des principaux textes budgétaires et le recours possible à l'article 49.3. Si les conditions de succès de cette dernière motion de censure n'étaient selon eux pas réunies, le groupe Liot pourrait ainsi se réserver une fenêtre de tir sur le budget. En mars dernier, leur texte transpartisan voté par le centriste Charles de Courson avait frôlé de renverser le gouvernement à 9 petites voix près. Comme vous avez très bien pu le suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Ça en est où l'IVG dans la Constitution d'ailleurs? Ça en est nulle part puisque les sénateurs ne semblent pas favorables à la version du texte qui avait été proposée par les députés. Or, comme pour changer la Constitution, il faut impérativement avoir l'accord des sénateurs et des députés sur le même texte. Pour l'instant, on est sur un statu quo, on ne bouge pas. Donc voilà. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire au même endroit qu'avant. Les députés de la NUPES ne parviennent pas à faire adopter une motion de censure. Elisabeth Borne peut se satisfaire de ne pas être renversée par une motion. Pour autant, peut-elle se satisfaire de ne pas avoir de majorité, d'être obligée d'avoir recours à des textes, à des articles comme le 49.3 pour faire passer ces réformes d'ampleur? Ça paraît difficile, d'où la question qui est sur toutes les lèvres. Se dirige-t-on vers un nouveau remaniement? Ça, c'est la grande question. Est-ce que l'attelage Elisabeth Borne, qui a été l'attelage choisi par Emmanuel Macron, avant les élections législatives de juin 2022, est-ce que cet attelage peut continuer encore ou est-ce qu'Emmanuel Macron a l'obligation de trouver une matière à réforme en faisant par exemple une alliance avec les Républicains? La question qui se pose. D'où la question du remaniement. Mais en fait, c'est vraiment la bonne question à se poser, c'est remanier pour quoi faire? Autre manière de poser la question, c'est en quoi le gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui est responsable du fait qu'il n'a pas de majorité. Sous-entendu, est-ce que changer les têtes, ça changerait profondément le problème? Moi, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas que changer Elisabeth Borne et mettre quelqu'un à sa place, qu'est-ce qu'il ferait de plus? Il n'y avait pas de majorité avant, pourquoi il y en aurait une après? Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de positionnement politique. Les députés Renaissance sont pas majoritaires à l'Assemblée et ils n'ont pas d'alliés. Ils n'arrivent pas à en trouver. Si tu mets Mélenchon à sa place, déjà, tu aurais plus de voix, non, par exemple. Alors, excellente proposition. Mettons Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Combien de députés votent les réformes de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Combien y a-t-il de députés pour soutenir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Y en a 110, 130. Combien est-ce qu'il en faut? 289. Est-ce que c'est assez? Non. Même pas toute la NUPES. Ouais, même pas toute la NUPES. Donc, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de majorité. Marine Le Pen n'a pas de majorité. Elisabeth Borne n'a pas de majorité. Personne n'a de majorité. C'est ça que je vous explique, c'est que c'est pas. Le gouvernement n'a pas de majorité, mais personne n'en a. Est-ce qu'une dissolution permettrait de dégager une majorité? J'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. De Courson n'a pas de majorité. Non, De Courson n'a pas de majorité. Regardez sa motion de censure. Même sur une motion de censure, sur une seule motion, Charles Courson n'arrive pas à avoir de majorité. Qu'est-ce qui est faisable alors? Alors, c'est tout le sujet. Qu'est-ce qui est faisable? Que peut faire Emmanuel Macron? La réponse, juste après une micro-pause, je vais aux toilettes, il faut absolument que j'aille pisser. Chante Sloubi pendant ce temps-là. Heureux! Sloubi 34. Félicitations. Bravo pour le Sloubi. Sloubi 34. J'en profite parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Cette semaine, jeudi, exceptionnellement, il n'y a pas Baxit. Parce qu'à la place, je fais une émission en partenariat avec la Banque de France. La Banque de France, on est en partenariat pour une émission en direct depuis la Banque de France. On va monter un plateau là-bas. Une émission au cours de laquelle je vais interviewer le gouverneur de la Banque de France, qui va répondre à mes questions sur le sujet de l'inflation, de la lutte contre l'inflation et la politique monétaire. Ok? Hashtag ad. Ouais, hashtag ad. Ou à la Banque de France? Bah au siège de la Banque de France à Paris. Tu seras seul ou avec les copains? Alors je serai seul en plateau avec le gouverneur de la Banque de France que je vais interviewer, mais il y aura 300, plus de 300 personnes dans le public, je crois. Et du coup, on a envoyé un mail aux donateurs de Baxit. On a envoyé un mail à certains donateurs de Baxit. Je crois ceux qui ont le plus donné à Baxit pour leur proposer de venir. Donc, si vous avez fait un don à Baxit et que vous faites partie des plus gros donateurs de l'émission, vous avez dû recevoir un mail avec un lien pour s'inscrire. Et en fonction des inscriptions, enfin du nombre d'inscriptions, en fonction de la jauge, on enverra d'autres mails, etc., pour essayer de remplir le truc. Donc merci. Donc voilà. Donc c'est quand même bien la moindre des choses de réserver ça aux gens qui soutiennent Baxit. Oui, mais des lettres au cours, je suis triste. Ouais. Genre le seul streamer à hyper sur un live de la Banque de France. Bah c'est plutôt cool, hein, un live de la Banque de France. Enfin, c'est plutôt cool. Moi je suis content parce qu'on va apprendre des trucs sur la lutte contre l'inflation, la politique monétaire, les mécanismes de l'inflation, le rôle de la Banque de France, etc. Voilà. Donc ça va être l'occasion de découvrir la Banque de France. Par son gouverneur en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Il finance Baxit aussi. Disons qu'il y a des discussions avec la Banque de France. Si ça se passe bien jeudi, peut-être qu'éventuellement on pourrait avoir un partenariat plus long terme et tout. Eux, vous savez, c'est la première fois de leur vie qu'ils font un partenariat avec un streamer. Donc pour l'instant, ils attendent de voir un peu comment ça se passe et tout. Après, voilà, on verra. Si ça se passe bien, moi j'espère que ça donnera naissance à. Donc voilà. Ce sera à quelle heure? Ce sera à 18h. Réserver le public de la Banque de France à ceux qui ont raqué ces thématiques. Bah, c'est-à-dire, à un moment donné, tu dois regarder le live de dimanche parce que je crois que tu sais pas très bien ce que c'est que la Banque de France. Est-ce que le gouverneur de la Banque de France fera partie des chroniqueurs de Baxit? Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu révises les cours sur la politique monétaire du coup? Oui, bah oui, moi je prépare mon émission. Je prépare mon émission. Quand s'arrête la saison de Baxit? La saison de Baxit s'arrête. La saison de Baxit s'arrête à la fin pour les deux dernières émissions. La dernière, c'est le 29 juin. D'ailleurs, vous pouvez prendre vos places. On les a mises en vente. Donc vous pouvez prendre vos places. On est dans le rush final de Baxit. Donc voilà. Qui sera sur le plateau de Baxit? Il n'y a pas Baxit jeudi. Il n'y a pas Baxit jeudi. Il n'y a pas Baxit jeudi. À la place, il y a une émission spéciale à l'occasion de, à l'occasion des rencontres de l'économie, les rencontres de la politique monétaire de la Banque de France. Donc ça remplace Baxit. C'est une autre émission spéciale Banque de France et spéciale politique monétaire sur le sujet. J'ai pris mon billet pour le 22. Ah, ça c'est cool. Il y aura Bruno Le Maire. Pourquoi il y aurait Bruno Le Maire à la Banque de France? Ce sera bien diffusé sur ta chaîne. Ce sera bien diffusé sur ma chaîne. Parce que le renouveau, c'est Bruno. Ça choque personne d'autre que moi que le moyen de sélection pour l'événement, c'est un classement basé sur la thune. Non, ça choque. Enfin, si ça te choque, j'en suis désolé parce que c'est un peu le mode de fonctionnement de toutes les communautés numériques. C'est-à-dire que j'envoie des. Quand j'ai des invitations pour des OP, je les envoie d'abord aux gens qui soutiennent financièrement la chaîne. Ça me paraît pas scandaleux. Pareil, hein, sur le Discord, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Parfois, il y a des invites, il y a des propositions, il y a des suggestions, il y a des OP. Enfin, je peux pas inviter la planète entière. Et quand les places sont limitées, bah, j'envoie d'abord le mail aux personnes qui font des dons pour soutenir Baxit, quoi. Et puis ça reste diffusé gratuitement. Ah, c'est totalement gratos, hein. C'est toujours pareil, hein. Les émissions sont gratuites. C'est pas, on n'est pas sur un abonnement ici, on n'est pas chez Mediapart, on n'est pas sur Arrêt sur Image ici, mais tous mes contenus sont entièrement gratuits et accessibles à tous. Est-ce que tu peux résumer rapidement le contenu de la loi immigration? Je suis perdu. Justement, on y vient. Fin de la page publicité, donc regardez jeudi à 18h. Regardez jeudi à 18h l'émission spéciale avec la Banque de France. On parlera du coup de politique économique, surtout de politique monétaire, dans un contexte de lutte contre l'inflation qui est un peu au menu du jour de tous les pays européens. Du coup, sur la question de l'immigration, effectivement, on est dans un moment important. On est dans un moment important puisque Renaissance, le parti du président de la République, Renaissance souhaite. Renaissance souhaite négocier un accord de gouvernement avec les Républicains. Merci JC Jérém. T'as oublié de dire ce que t'as teasé avant d'aller pisser. Oui, non, mais justement, mais si, justement. Justement, c'est ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qui reste comme option à Renaissance, donc à Emmanuel Macron, en gros, pour trouver une majorité? Eh ben, c'est de négocier avec les Républicains. Quel est le seul groupe de députés avec lequel Emmanuel Macron pense avoir une chance de réussir à négocier pour créer une majorité de coalition, donc, ce sont les Républicains. À gauche, tous les députés à la gauche de la Macronie sont membres de la NUPES. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer Emmanuel Macron réussir à convaincre Olivier Faure et le groupe socialiste, en plus je crois qu'ils sont même pas assez nombreux, de les rejoindre pour faire un accord avec eux. Je pense que Olivier Faure et les socialistes n'ont absolument aucun intérêt et aucune envie de gouverner avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui reste ? Il reste les Républicains. Or, le gouvernement, rappelez-vous, parce que vous suivez cette chaîne et vous avez bien raison, le gouvernement a essayé, déjà par le passé, de trouver un accord avec les Républicains. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps, à l'occasion d'une petite réforme, trois fois rien, hein, une réforme des retraites. Le gouvernement, Elisabeth Borne, le ministre du Travail, comment il s'appelle ? Je suis fatigué. Olivier Dussopt, merci beaucoup. On négocie avec les Républicains un accord sur la réforme des retraites. Les Républicains proposaient l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans pendant la présidentielle. Le gouvernement proposait 64 ans avec des mesures complémentaires. Ils ont négocié avec les Républicains pour voir si ça pouvait le faire. Ils ont négocié avec qui ? Ils ont négocié avec le président du parti Les Républicains, Aurélien Pradier. Ils ont négocié avec le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. Et ils ont topé. Ils se sont mis d'accord. Donc Ciotti et Marleix ont dit « Ok pour nous, si vous acceptez nos amendements, on vote la réforme. » Du coup, le gouvernement a accepté les amendements des Républicains. Et là, patatras, quelle ne fut pas notre stupéfaction lorsque nous découvrûmes, en direct sur Twitch, que les députés Les Républicains, bah, ils n'ont pas voté la réforme des retraites. Voilà. Il y a eu tout l'épisode d'Aurélien Pradier, qu'on a reçu sur le plateau de Backseat. Il y a eu tout l'épisode des hésitations, etc. Il y a plein de députés Les Républicains qui n'ont pas voté la réforme des retraites, forçant de fait le gouvernement à constater que malgré leur accord avec Ciotti et Marleix, eh ben, il n'y avait toujours pas de majorité. Du coup, le gouvernement a fait le 49-3 et vous connaissez la suite de l'histoire. Morale de l'histoire, est-ce que Olivier Marleix et Éric Ciotti ont suffisamment d'autorité sur leur propre groupe pour pouvoir leur imposer un accord de gouvernement avec Macron ? C'est toute la question. C'est toute la question. C'est toute la question. Enfin bon, ça c'est pas la première fois que vous me l'entendez dire. On l'avait déjà dit 1000 fois sur le plateau de Backseat. Donc voilà. Donc comment on fait pour trouver un accord de gouvernement avec un groupe de députés qui a l'air d'être pas chaud pour bosser avec, avec Renaissance, même si Renaissance applique à peu près leur programme au groupe en question ? Bah c'est toute la question. C'est toute la question. Renaissance convoque les cadres de la majorité pour discuter d'une éventuelle alliance avec les Républicains. Dans un mail envoyé samedi que France Info a pour consulter, le secrétaire général du parti présidentiel convoque ses cadres pour une réunion politique. Renaissance convoque les cadres du parti à l'Assemblée nationale pour discuter d'une éventuelle alliance avec les Républicains, révèle ce lundi France Info. Même si la question divise en interne, Renaissance réfléchit bien aux conséquences de ce scénario. Le secrétaire général du parti présidentiel, Stéphane Séjourné, a envoyé un mail aux parlementaires où il les convie à une réunion politique. Ce mail, que France Info a pu consulter, a été envoyé samedi 10 juin 2023 au cadre de Renaissance pour les inviter le 21 juin prochain à 10h à un échange sur le contexte politique et la stratégie de la majorité. Donc le jour de la fête de la musique, pendant que vous et moi, on sera en train de préparer nos plans pour savoir où est-ce qu'on va faire la teuf ce soir, les cadres de Renaissance vont se réunir pour discuter de... Comment vous le sentez les gars ? Cette réunion qui se tiendra au siège du parti présidentiel a pour objet de clarifier les intentions des membres de la majorité sur la question à savoir s'il est envisageable de travailler avec les Républicains. Cette consultation au sommet de l'appareil macroniste est destinée à prendre la température, alors que l'idée d'une coalition avec les Républicains continue d'agiter la majorité. Cette initiative va dans le sens de la mission qu'Emmanuel Macron a confiée à la Première ministre d'élargir sa majorité, mais ces tractations très incertaines ressemblent à un coup de poker. Sur quel sujet la Macronie et la droite peuvent travailler ensemble ? Immigration, institutions, budget sont déjà sur la table. Sachant que sur les institutions... Et sur le budget, ça coince déjà pas mal. Immigration, on va voir. Mais dans l'entourage du président de la République, on dit vouloir garder la main et ne pas subir un accord avec la droite. C'est pour cela que politiquement, l'équation vire surtout au pari, bien que Nicolas Sarkozy continue à vendre cet accord. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a rejoint Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle et que depuis, il est un des plus gros avocats en faveur d'une alliance LR-Renaissance. Et Renaissance et Le Pen, ils veulent pas être copains. La majorité est trop sale, la majorité entre deux. Pour le coup, il y a très très peu de chances qu'il y ait une majorité Renaissance-RN, déjà parce qu'elle n'est souhaitée ni par le Renaissance ni par le RN, et en plus parce que le RN vote les motions de censure contre Renaissance. Donc il y a un moment... Puis surtout, ils sont d'accord sur pas grand-chose, quoi. À part l'autoritarisme. Ce qui est déjà pas mal, tu me diras, mais enfin bon, sur les sujets européens, sur les sujets de... Ouais, non. Ça, j'y crois pas du tout. Hop. C'est pour ça que politiquement, l'équation vire surtout au pari, bien que Nicolas Sarkozy continue de vendre cet accord. Les LR sont divisés, et rien ne dit que faire entrer quelques têtes au gouvernement assurerait une majorité à l'Assemblée nationale. Eh oui. Et à contrario, si le gouvernement penche trop à droite, une partie de la majorité présidentielle risque de ne plus suivre. Le casse-tête est total. L'exécutif reste sous la menace permanente d'une motion de censure, et pour l'instant, les tractations avec la droite ne répondent pas à cette question. Et c'est vrai que du coup, la problématique, elle est double. Et c'est ce qui explique assez bien ce billet politique, ce brief politique de Jean-Rémy Baudot, qui dit qu'en fait, c'est un coup de poker énorme pour Emmanuel Macron de faire un accord avec les Républicains, parce que d'un côté, c'est pas parce que tu fais rentrer des poids lourds des Républicains au gouvernement que tu t'assures du vote de tous les Républicains sur tous les textes du gouvernement. Les députés, les Républicains ont quand même fait une belle démonstration de leur autonomie de vote à l'occasion de la réforme des retraites. Donc bon, visiblement... C'est chaud. Et puis par ailleurs, si tu fais un accord de gouvernement avec les Républicains, que tu fais rentrer des Républicains au gouvernement, bah rien ne te garantit que tous les députés de Renaissance restent dans la majorité. Il y a peut-être des députés de Renaissance qui vont dire trop c'est trop et qui vont se barrer. Bon, en même temps, ça fait 6 ans qu'on dit ça. Que dit donc les députés Renaissance qui sont pas trop à droite, j'ai envie de dire, s'ils avaient envie de se barrer, ils auraient eu l'occasion de le faire 1000 fois. EDS. Bah ouais, c'est ça, tu vois, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, il avait été créé sur le quinquennat précédent par des députés qui s'étaient barrés, mais là j'ai envie de dire tous les députés qui voulaient se barrer se sont déjà barrés, ou alors ils n'ont pas été réinvestis, donc il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des départs massifs de députés macronistes de gauche. En gros, il n'en reste plus beaucoup, quoi. Et je vous invite à regarder l'excellente émission Brexit, au cours de laquelle on a interviewé Barbara Pompili, qui est l'une des rares députées, encore dans la majorité, à justement essayer de faire vivre une jambe gauche de la majorité. Et bon, elle reconnaissait elle-même qu'ils étaient 3, à tout casser. 3 ou 4 députés. 3 ou 4 sur 240, ça pèse pas lourd, quoi. Il reste du SOPT. Non mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que parmi les figures de la gauche de la Macronie, il y a du SOPT. J'ai envie de te dire, si du SOPT est encore là et que ses camarades sont encore là avec lui, au sein du Parti Territoire de Progrès notamment, il y a quand même très peu de chances que Dussopt quitte le gouvernement en claquant la porte en disant non, c'est un gouvernement trop à droite pour moi. Non. Il y a Papendiaï. Ouais, mais Papendiaï, il est ministre. Papendiaï, il est pas député. Il a pas de député avec lui. Pas beaucoup, tu vois. Il y a Clément Beaune. Ouais, Clément Beaune. Clément Beaune pourrait claquer la porte. Olivier Véran, ouais. Donc bref, tout ça pour dire que même si je crois pas à une hémorragie massive de députés qui seraient scandalisés par un accord de gouvernement avec les Républicains, je pense plus probable la difficulté pour le gouvernement à rassembler les Républicains autour d'une alliance, quoi. C'est pour le coup, c'est plutôt ça. Alors du coup, à quoi ils jouent les Républicains? Eh ben, on a un article d'analyse d'Alexandre Pedro dans Le Monde. LR tente de s'imposer sur le régalien. À quoi jouent les Républicains pendant ce temps-là? Vous avez une très bonne photo dans laquelle vous voyez Éric Ciotti, président du parti, et Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains, avec Véronique Louwagie. Là, ils sont en train de discuter avec Véronique Louwagie, qui est un poids lourd des Républicains, Véronique Louwagie. Entre le parti Les Républicains et la majorité, l'heure n'est plus trop aux mains tendues, mais plutôt aux bras de fer. Et sur le régalien, la droite est persuadée de pouvoir la gagner. Allié désuni et défaillant lors de la réforme des retraites, absolument, LR est en voie de se refaire une cohésion depuis l'offensive de ses chefs sur l'immigration, fin mai, à la une du journal du dimanche. Oui, parce qu'à la fin du mois de mai, donc c'était il y a 2-3 semaines, les Républicains ont sorti leur plateforme programmatique et leurs propositions en matière d'immigration. Je vous le spoil, c'est grosso modo un copier-coller de ce que propose Marine Le Pen sans la préférence nationale. Et encore que, il y a 2-3 trucs où il sort vraiment avec la limite, quoi. Le constat n'est pas nouveau. Vu depuis les fenêtres de la rue de Vaugirard, le sujet reste un impensé du macronisme, un angle mort à exploiter. L'exécutif renvoie sur les questions régaliennes en général une impression de faiblesse, et les Français sont en train de s'en rendre compte, veut croire Éric Pauget, député des Alpes-Maritimes. Sur la loi immigration, je ne sais pas ce qu'ils veulent dans la majorité. Un texte, deux textes, quand, pour l'instant, la seule base de travail concret sur laquelle avancer, ce sont nos deux propositions de loi. Alors, deux trucs. D'une part, le régalien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le régalien, c'est devenu un peu une facilité de langage pour désigner tous les articles autour de la structure et de l'autorité de l'État. Donc, c'est les sujets immigration, c'est les sujets défense, c'est les sujets intérieur, autorité, police, gendarmerie, justice, insécurité, etc., etc. C'est ça qu'on appelle le régalien. Donc en gros, vous retirez de ça les enjeux scolaires, les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux sociétaux et plein d'autres trucs. Le régalien, c'est vraiment l'autorité de l'État. Voilà, on va dire ça comme ça. Et l'organisation de l'État aussi. C'est une mauvaise définition. Alors c'est une mauvaise définition, en tout cas c'est une définition qui n'est pas historique, mais c'est une définition qui s'est imposée dans l'habitude qu'on a pris aujourd'hui en utilisant le mot régalien pour discuter de l'actualité politique. C'est les trucs qui régalent, oui c'est ça. Tac. Donc Éric Pauget, député des Alpes-Maritimes, reconnaît que l'exécutif renvoie une impression de faiblesse sur les questions régaliennes, et il dit pour l'instant la seule base de travail concret sur laquelle avancer, ce sont nos deux propositions de loi en matière d'immigration. Alors je ferai remarquer à Éric Pauget que le gouvernement souhaite avancer en matière d'immigration, mais que Elisabeth Borne a très bien expliqué dans la foulée de l'annonce des 100 jours d'Emmanuel Macron, que le but du jeu pour le gouvernement, c'était de négocier avec les Républicains sur la question de l'immigration afin de trouver justement une majorité. Donc c'est pas faute de volonté du gouvernement d'avancer, c'est juste faute de capacité des Républicains à trouver un accord. Quand même pas pousser mémé dans les orties. Donc c'est normal qu'aujourd'hui la seule proposition de loi qu'il y a c'est les Républicains, c'est parce que le gouvernement laisse justement la main aux Républicains. Et quand tu laisses la main aux Républicains, t'inquiète qu'ils n'hésitent pas à la saisir, on va voir ça. Pour ce proche d'Éric Ciotti, le président du Parti Les Républicains est aussi dans son rôle quand il réagit au drame d'Annecy, dans lequel 6 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées lors d'une attaque au couteau, et remet sur la table la question de son parti d'un bouclier constitutionnel permettant à la France de déroger au droit international en matière de contrôle de l'immigration. C'est au cœur de la contre-proposition du contre-projet des Républicains en matière d'immigration. Les Républicains proposent un référendum pour permettre à la France de déroger aux traités internationaux en matière d'immigration, pour des raisons de lutte contre l'insécurité, etc. Donc Éric Ciotti va assez loin en matière de droite dure sur la lutte contre l'immigration. Un homme politique responsable doit porter des mesures, doit agir. Il ne doit pas être que dans le commentaire, assume M. Ciotti, interrogé sur France 2 vendredi. Ciotti qui assume de proposer un truc assez vénère. Dans l'entourage du Niçois, Éric Ciotti est niçois, on fait de la révision de la Constitution le thermomètre de la volonté de la majorité de vouloir travailler avec LR sur l'immigration. Mais les cadres du parti devinent le président de la République, Emmanuel Macron, assez froid sur l'idée. Tu m'étonnes. Ils ont déjà acté la fin de non-recevoir et doutent de la capacité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'arriver à présenter un jour une loi immigration à leur goût. Donc vous avez compris que dans le pas de deux entre le gouvernement et les Républicains, les Républicains ont bien compris qu'ils avaient l'avantage de la négo. Donc, les Républicains font monter les enchères assez haut. Et ils mettent sur la table un truc hyper vénère qui est un référendum sur l'immigration. Merci Paris Idoli pour ton prime. Merci beaucoup. Ils mettent sur la table un référendum sur l'immigration. Et ils savent très bien qu'Emmanuel Macron n'ira pas jusque-là. Qu'il n'a aucune envie d'aller jusque-là. Et sans référendum sur l'immigration, la balle revient dans le camp de Gérald Darmanin, qui vient des républicains, mais que les républicains pensent pas assez courageux pour aller jusque là où il voudrait qu'il aille. Donc bref, les républicains sont dans une position où ils font monter les enchères tellement haut qu'ils empêchent le gouvernement de s'aligner sur eux, et en même temps, faut pas qu'ils fassent monter les enchères trop haut, parce que ce petit jeu-là, en fait, c'est que Marine Le Pen qui va tout rafler, en fait. Darmanin, il est pas LR. Ah non, Darmanin, il est pas LR, il est plus LR. Il a quitté les Républicains en 2017 pour rejoindre Emmanuel Macron. Donc, est-ce que le coup de barre à droite des Républicains, c'est un coup de génie pour réussir à négocier une politique plus conforme à ce que veulent les Républicains? Ou est-ce que c'est un coup de folie qui risque tout simplement de tuer les Républicains? Parce qu'à force de juste copier le programme de Marine Le Pen, pas sûr que l'identité des Républicains s'affirme beaucoup. En réalité, l'objectif serait plus tactique. Il s'agit d'imposer ses thèmes à la majorité et de montrer que celle-ci est sous l'influence paralysante d'une aile gauche qui, à la différence de M. Darmanin, n'a pas envie de dire chiche à la droite. Le problème de Gérald Darmanin n'est pas « ce n'est pas nous ». Son problème, c'est son aile gauche, assure le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Chez les macronistes, il y a beaucoup de députés qui ne sont pas sur notre ligne de fermeté sur le régalien, juge Éric Poget. Beaucoup sont encore dans le fond des strauss-kahniens, des socialistes libéraux. Ça, c'est le grand argument des Républicains. Ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre, celui-là. Essayer de faire croire que la majorité Renaissance n'arrive pas à avancer parce qu'elle est sous le coup d'une minorité de gauche qui l'empêche d'avancer. J'ai beau chercher, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'arrive pas à voir où est-ce qu'ils vont avec ce truc-là. C'est un argument pour les vieux. Ouais, clairement. Strauss-kahnien. Oui, Dominique Strauss-Kahn était un homme politique du Parti Socialiste des années 90 et 2000, même avant d'ailleurs, qui était un représentant de ce qu'on appelait la deuxième gauche, des rocardiens, c'est-à-dire la gauche moderne, la gauche social-démocrate, voire social-libérale. C'était pas le seul, il y avait Manuel Valls aussi plus tard, il y avait Jean-Christophe Cambadélis, ça dépend des jours. Il y avait un paquet de gens qui représentaient cette aile-là et qui se sont fondus dans le macronisme dans l'après-Hollande. Donc c'est ça, strauss-kahnien, ça veut dire toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui s'étaient construits sur la gauche moderne, qui en gros voulaient copier ce qu'avait fait Tony Blair au Royaume-Uni, ce qu'avait fait Gerhard Schröder en Allemagne, qui est grosso merdo en fait le programme qu'a fait François Hollande quand il était au pouvoir hein, d'ailleurs. Social libéral, politique de l'offre, aide aux entreprises, durcissement des règles du marché du travail. Rien de très original, quoi. Donc bref, des sociaux libéraux, quoi. Et donc, ce que disent les Républicains, c'est que la majorité Renaissance, elle est handicapée par des strauss-kahniens qui empêcheraient le gouvernement de faire des trucs suffisamment à droite. À mon avis, il fait référence à la tentative infructueuse d'Emmanuel Macron de nommer première ministre Catherine Vautrin, qui a effectivement été bloqué par une partie de la majorité issue de la gauche et qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée de Catherine Vautrin au gouvernement. Mais bon, là, je fais référence à Richard Ferrand, à Christophe Castaner, à Stéphane Séjourné, à Gabriel Attal, et encore que, je suis même pas sûr que... Ouais, à... à De Normandie, à Clément Beaune. Bon. C'est qui Catherine Vautrin? Catherine Vautrin, c'est la maire de Reims. Et elle a failli être première ministre. Elle est issue des Républicains. Mais quand Emmanuel Macron a voulu la nommer première ministre, une partie effectivement de l'état-major de Renaissance a bloqué cette proposition parce qu'il la trouvait trop à droite. Séjourné existe encore. Ah bah, Stéphane Séjourné, il est à la tête du parti le plus puissant de l'Assemblée nationale, quand même. C'est quand même pas rien. Intolérable mainmise de la gauche sur le gouvernement. Il y a la bande de Poitiers, quand même, à l'Assemblée nationale. Ouais, mais enfin, tu me feras pas croire que la bande de Poitiers fait peser sur le gouvernement une éternelle menace de pas voter ses textes parce qu'ils sont trop à droite, tu vois. C'est quoi la bande de Poitiers? Le gang de Poitiers, c'était le surnom affectif qu'on avait donné. Enfin, que d'ailleurs, ils s'étaient nommés eux-mêmes. les jeunes issus de la gauche, les jeunes issus de la gauche qui font partie de la majorité. C'est Pierre Person, Stéphane Séjourné, Aurélien Taché, Sacha Houlié, Guillaume Chiche. Voilà, c'est eux. C'est eux la bande de Poitiers. Donc visiblement, ouais. Bref, on continue. Un épisode récent illustrerait ce tropisme dans le groupe Renaissance. Mercredi, les députés macronistes ont décidé de ne pas voter la proposition de résolution de Véronique Louwagie sur la révision de l'aide médicale d'État. L'idée de la députée LR de l'Orne, portée par Éric Ciotti depuis une dizaine d'années, est de mettre fin à ce que la droite considère comme un dérapage totalement incontrôlé de ses dépenses en limitant le panier de soins aux seuls cas les plus urgents. Pour avoir échangé avec certains collègues de la majorité, il est apparu une fracture chez eux. Certains me disaient pourtant qu'il ne fallait pas avoir peur d'avancer sur ce sujet, regrette Madame Louwagie. Grand truc historique, effectivement, des Républicains, ils veulent mettre fin à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, je rappelle, c'est un dispositif qui permet aux étrangers qui sont sur le sol national de bénéficier de soins quand ils ont des problèmes de santé, alors que comme ils n'ont pas la nationalité, ils n'ont pas non plus accès à la sécurité sociale, etc. Et donc Véronique Louwagie avait effectivement proposé une résolution pour limiter l'AME seulement aux urgences, en gros. Donc voilà. Vautrin n'est pas maire de Reims, c'est Arnaud Robinet le maire de Reims, Catherine Vautrin c'est la présidente du Grand Reims. Oui, mais c'est l'ancienne maire de Reims. Elle est présidente du Grand Reims maintenant, mais c'est l'ancienne maire de Reims, non? Catherine Vautrin. Il est important de préciser que cela fait faire des économies. Oui. Après, on pourrait discuter du caractère vraiment économe du fait de laisser l'état de santé des populations visées s'aggraver pour qu'ensuite ils arrivent aux urgences, ce qui coûte autrement plus cher. Ah non, tu veux dire dans l'autre sens. L'AME fait faire des économies. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Non, je croyais que tu me disais supprimer l'AME fait faire des économies. Parce que c'est ce que disent c'est ce que disent les Républicains. Les Républicains, ils disent il faut supprimer l'AME parce que ça coûte de l'argent. Enfin bon. Bref. Je reviens là-dessus. À droite, ce refus, donc le refus de voter la suppression de l'AME, enfin en tout cas la limitation de l'AME aux cas les plus urgents, ce refus a été perçu comme une victoire de la fameuse aile gauche. Revancharde après l'offensive LR sur l'immigration. C'est bien l'illustration de la situation ambivalente dans laquelle se trouve la majorité, poursuit M. Pauget. Voter une proposition de résolution, ça n'engage à rien. Il suffit juste de dire oui, on veut bien réfléchir et travailler ce sujet avec vous. Mais existe-t-il aussi du côté des Républicains une réelle envie de collaborer avec l'exécutif? Et sur quelle base? Oui, c'est ça l'autre question. À l'image d'Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux à penser que l'élargissement demandé par Emmanuel Macron à sa première ministre Elisabeth Borne est une vaste opération d'enfumage. Je n'ai jamais cru à une main tendue de Macron. Il a perdu le pouvoir législatif, ce n'est pas pour partager l'exécutif avec nous, souffle-t-il. Le sujet d'un accord. Ça, c'est Olivier Marleix qui dit ça. En même temps, Olivier, t'as pas l'autorité sur ton propre groupe, j'ai envie de dire. Tu vas partager quoi avec qui? Le sujet d'un accord avec le gouvernement n'est pas sur la table. Dans l'immédiat, je ne vois vraiment pas comment cela peut évoluer, prolonge Véronique Louwagie. Dans l'état-major de LR, on ose désormais évoquer l'idée d'une motion de censure si le gouvernement cherchait à faire passer un texte sur l'immigration pas assez vigoureux. Chiche. Chiche. Est-ce que vous pensez... Tiens! Politique fiction. Politique fiction. Est-ce que vous pensez que si les Républicains déposent une motion de censure... Parce que, selon vous, parce que le projet de loi du gouvernement anti-immigration ne va pas assez loin dans la chasse aux immigrés, est-ce que vous pensez que la NUPES voterait cette motion de censure? Aha! C'est intéressant. Non, c'est pas cohérent avec on vote rien qui vient du RN. Ah mais là, c'est pas le RN. C'est pas le RN, c'est LR. Honnêtement, j'en sais rien. Ça dépendra de comment se passent les débats, etc. Le PCF peut-être, mais pas les autres partis. Le PCF ? Mais le PCF, ils sont pas pour la fin de l'AME. Ils l'ont toujours défendu. Ils sont pas pour la préférence nationale. Ils sont pas pour les quotas migratoires. Je dirais, ils l'ont jamais été, donc... Ouais, non. Donc on verra. On verra ce que ça va donner tout ça. J'aimerais bien interviewer Véronique Louwagie, pour le coup. J'aimerais bien la recevoir sur le plateau de Backseat parce que j'ai un milliard de questions à lui poser. Olivier Marleix aussi, hein. J'ai un milliard de questions à leur poser. Justement, sur ce positionnement, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi l'identité politique des Républicains aujourd'hui? J'ai un peu l'impression que les Républicains sont à la droite, ce que le PS est à la gauche. Non, pas le PS, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Non, parce que le PS, ils ont rejoint la NUPES, donc c'est ce que Cazeneuve est à la gauche. Non, bah non. En plus, non, c'est pas vrai ce que je dis, parce que Cazeneuve, il est pas du tout dans un virage à gauche sans les freins, alors que les Républicains, ils sont dans un virage à droite sans les freins, là. Ils y vont à fond, quoi. Ouais, donc non, c'est débile ce que je dis. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les Républicains, ils essayent d'être plus responsables que Marine Le Pen dédiabolisée. C'est à ce petit jeu-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que Marine Le Pen qui gagne parce que du coup, c'est son programme qui est appliqué par des gens en costume cravate qui savent gouverner. Les LR, c'est l'inverse de Cazeneuve. Non, 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 mais justement, c'est pour ça que je t'explique. C'est que Bernard Cazeneuve, on va en parler juste après. Bernard Cazeneuve, il essaye d'être la caution de la social-démocratie responsable et raisonnable. Des gens qui savent gouverner, qui sont prêts à assumer la responsabilité, qui ne sont pas démagogues, etc. C'est ce qu'ils mettent en avant. C'est ce que met en avant Bernard Cazeneuve. J'ai l'impression que les Républicains, ils essaient de faire pareil à droite. C'est-à-dire, non, mais le RN, c'est des débiles. Ils sont cons, ils sont incapables de gouverner. Nous, on a l'expérience du gouvernement. On a déjà été au gouvernement, on sait faire, etc. Donc. On n'est plus respect, on n'est plus. On a un savoir-faire. Le LR fait campagne pour le RN et il légitimise leurs idées. Bah, c'est-à-dire que c'est exactement le paradoxe que je pointe, c'est qu'en fait, vouloir être responsable et respectable en appliquant littéralement le programme de l'extrême droite, ça te rend pas respectable et responsable. Enfin, tu vois, c'est encore une fois, j'ai du mal à comprendre ce que LR espère gagner à ce petit jeu-là. Je sais pas. Les LR devenus eurosceptiques alors que membre du PPE. Oui, en plus. Oui, en plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire faire un référendum pour désobéir aux traités européens quand t'es le parti français qui a le plus travaillé à la construction européenne. Il y a un moment, ça va, quoi. Les mecs, les républicains qui mettent la main sur le cœur me dire que l'Union européenne, ça va 5 minutes, ça suffit, les traités, machin. Non, mais les gars, enfin, il y a un moment, ça va, quoi. C'est vous qui avez fait le traité de Lisbonne, c'est vous qui avez fait Maastricht, c'est vous qui avez fait. Tu vois, il y a un moment. Et on va se détendre, hein. L'argument, l'Union européenne, elle est trop à gauche. Je veux bien être souple, mais enfin celle-là. Non mais Barnier, vous vous souvenez de Michel Barnier? Michel Barnier en 2021 qui essaye de vendre ça aux adhérents LR. Michel Barnier. Le commissaire européen Michel Barnier. Le plus grand européen des Européens qui débarque et qui dit ouais, je pense qu'il faut désobéir à l'Europe. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est. Après, encore une fois, on en a déjà parlé, mais les républicains ont déjà connu une hémorragie où tout ce que la droite républicaine française comptait d'européistes libéraux sont déjà partis pour rejoindre Macron, en fait, hein. Il ne reste plus que. Ouais, je dis ça, mais. En tout cas, chez les électeurs, c'est clair. Hein. Alors, ça, chez les électeurs, c'est clair, c'est extrêmement clair. Hop, dernier article sur le sujet du coup. Le move d'Éric Ciotti que vous voyez ici à l'image. Le move d'Éric Ciotti, le président des Républicains, qui demande solennellement à rencontrer Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est smart de sa part, Éric Ciotti. Il met la pression sur Emmanuel Macron en disant: je vais vous rencontrer, je veux discuter. Emmanuel Macron est forcé de le rencontrer parce qu'Emmanuel Macron essaye d'être le mec qui joue la main tendue et qui discute. Sauf qu'en acceptant de recevoir Éric Ciotti, il force. Enfin, Éric Ciotti réussit à forcer Emmanuel Macron à reconnaître publiquement qu'il cherche à nouer un accord avec les Républicains. Alors que le gouvernement espère trouver un compromis sur son projet de loi, les Républicains tentent de promouvoir deux propositions très strictes sur l'immigration. Ils refusent de se laisser embobiner dans un énième scénario à l'eau tiède. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a demandé solennellement à Emmanuel Macron de le recevoir sur la question de l'immigration, dans un entretien publié samedi dans Le Parisien. C'est à l'Élysée que ça se décidera. C'est le président de la République qui a les clés, et lui seul, estime le député des Alpes-Maritimes, rappelant cependant qu'en compagnie de deux des présidents des groupes LR au Sénat, Bruno Retailleau, et à l'Assemblée, Olivier Marleix. Attends. Rappelant cependant qu'en compagnie des présidents des groupes LR au Sénat et à l'Assemblée, il répondrait à l'invitation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par courtoisie. Ah, donc ils ont accepté de recevoir Darmanin, mais Éric Ciotti veut monter à l'étage du dessus. Et même à deux étages dessus. Les Républicains ont déposé deux propositions de loi sur l'immigration, à la ligne très dure, face à un gouvernement qui espère un compromis autour de son futur projet de loi. Mais c'est une fausse main tendue, il n'y a pas de fermeté dans la poignée de main, a regretté Éric Ciotti, pour qui seule la proposition de LR peut résoudre le problème de l'immigration dans notre pays. Le parti prévoit notamment la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen. Interrogée dans l'émission Dimanche en politique diffusée sur France 3, la première ministre Elisabeth Borne a renvoyé la droite aux rencontres prévues par le chef de l'État sur la réforme des institutions. Ah, elle a raison. Non, c'est smart. C'est smart de la part d'Elisabeth Borne de renvoyer la droite au CNR. Ah, c'est pas le CNR d'ailleurs. C'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça avait été annoncé par Emmanuel Macron dans le cadre des 100 jours. C'est smart parce qu'il y a un calendrier est déjà prévu. Donc en fait, elle propose aux Républicains de se fondre dans le calendrier qui avait été prévu par le gouvernement. Malin. Le coup de poker est assez habile. Des deux côtés. Elle a affirmé vouloir charger Gérald Darmanin avec Olivier Dussopt d'échanger avec Éric Ciotti, ainsi qu'avec le président des centristes au Sénat, Hervé Marseille, et avec M. Marleix, au sujet du projet de loi ordinaire présenté par LR. Proposition de loi ordinaire, pas projet de loi ordinaire. Non, c'est proposition de loi, bref. Tac, 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 tac. Là aussi, c'est smart de la part d'Elisabeth Borne, parce qu'elle les renvoie vers Darmanin. Darmanin qui est un ancien LR et qui est détesté par les LR. Los Republicanos, éternel. Par ailleurs, a-t-elle relevé, il y a des sujets constitutionnels qui sont soulevés par les Républicains. Le président de la République a prévu de recevoir toutes les forces politiques le moment venu. Les Républicains pourront aussi présenter leurs propositions constitutionnelles en général, et notamment sur ce sujet, a-t-elle ajouté. Ok, donc ils veulent pas se laisser tordre le bras par le move d'Éric Ciotti, ils ont bien raison. Le président de la République demande à être reçu par le président de la République. Non, pardon. Le président des Républicains demande à être reçu par le président de la République pour discuter, c'est légitime, a en revanche réagi le président du MoDem, François Bayrou, dimanche sur Europe 1, Les Échos CNews. Il est casse-couille, François Bayrou, putain. Il peut pas s'empêcher de dynamiter. Mais selon M. Bayrou, déroger à la primauté des traités et du droit européen ne se fera pas, parce que sans ça, les autres vont sortir des traités européens à notre détriment. Cependant, les propositions LR ne sont pas, ne sont pas de la démagogie, considère l'allié d'Emmanuel Macron, les Républicains, les socialistes, essaye difficilement de trouver un chemin selon lui. Ah bah en même temps, François Bayrou, il est en train de vivre sa revanche. Hein. Il est en train de vivre sa revanche sur l'histoire. François Bayrou, qui voit les Républicains et les socialistes respectivement se dépatouiller avec l'effritement, ça doit bien le faire marrer. Après 30 ans à prêcher dans le désert. Bayrou Premier ministre. Alors Bayrou Premier ministre, tu peux être sûr que les Républicains feront pas partie du gouvernement. C'est certain. Donc c'est un véritable casse-tête pour Emmanuel Macron, qui ne parvient pas à négocier avec les républicains qui pendant ce temps-là font monter les enchères pour exister, au risque de trop faire monter les enchères pour arriver à tout faire capoter, quoi. Genre Macron va accepter de déroger à des règles européennes. Non mais voilà, c'est ça. En fait, les républicains, ils proposent à Macron un truc inacceptable pour Macron. Tu peux pas proposer à Macron de déroger aux règles européennes, genre juste non. Tu peux le proposer à Marine Le Pen, elle adore. Tu peux le proposer à plein de gens, mais tu peux pas le proposer à Macron. Genre, il n'y a pas de sens. C'est un véritable castex, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, demander à Macron de faire un compromis, c'est compliqué. Bah, oui et non. Oui et non. Tu peux pas reprocher à Macron de ne pas avoir essayé de faire un compromis avec les Républicains sur la réforme des retraites. Le problème n'est pas venu de Macron, le problème est venu des Républicains qui ont dit oui et puis finalement non. Ils n'ont pas voté. Donc, assez dépend. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi Jean, c'est si cher les places à Baxit? Ah, ça n'a rien à voir avec la discussion. C'est pour les nems et les binous, déjà. Non, surtout parce que ça participe au financement de l'émission. Le but, c'est de financer l'émission. Macron aujourd'hui est potentiellement RN demain. Ciotti garde la place du faiseur de roi. Le move est bon. Je réfléchis. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, compte tenu des circonstances, les Républicains ont un poids politique bien plus important que ce qu'ils devraient avoir compte tenu du faible nombre de députés qu'ils ont. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que, normalement, quand tu as une quarantaine de députés à l'Assemblée, tu pèses que dalle. Tu fermes ta gueule, et si on te donne la parole de temps en temps, tu dis merci. Sauf que, comme on est dans une situation où le gouvernement n'a pas de majorité, ton petit groupe de 40 devient un groupe important parce qu'on est obligé de composer avec toi. Donc tu réussis à avoir un poids politique inversement proportionnel à ton poids réel parlementaire. C'est-à-dire que un groupe de 40 députés, normalement, il réclame pas à se faire recevoir par le président de la République. Il ferme bien sa gueule. Genre. Le fait majoritaire fait que normalement, président de la République, il a une majorité à l'Assemblée. On ne peut pas demander à rentrer dans son bureau comme ça. Genre, non. Président de la République, tu fermes ta gueule. Tu peux éventuellement lui envoyer un courrier, il le lira s'il a du temps. Sauf que là, le président de la République, comme il n'a pas de majorité, bah. Il se fait siffler par Ciotti. Mais Ciotti a le pouvoir de le faire! Puisqu'effectivement, il devient une béquille absolument nécessaire pour Macron. Faut pas lui en vouloir, hein. Genre, il joue avec les cartes qu'il a, il se trouve que contextuellement, il a plus de puissance que ce qu'il devrait avoir, donc il en joue à mort, hein. J'adore les groupes parlementaires aux manettes, c'est LR, Elliott, tout va bien. Ah non, mais complètement, hein. Macron ne peut s'allier qu'au LR. Bah, si tu regardes. Concrètement, la composition de l'Assemblée nationale, il n'y a que les LR qui peuvent apporter les voix suffisantes pour créer une majorité. C'est pas du côté de la NUPES que tu vas en trouver, et c'est pas du côté de l'IOT non plus. Mais est-ce qu'il n'a pas déjà cramé sa carte en échouant à mobiliser ses députés pour les retraites? Bah, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. C'est pour ça qu'à mon avis, les Républicains Faut pas trop qu'il joue au foufou. Tu fais trop le fou là. T'en demandes trop. Tu vas te prendre une tarte, tu vas rien avoir. Tu vas finir avec une dissolution où tu vas te faire rétamer la gueule par Marine Le Pen, qui va avoir une majorité absolue de députés, qui va gouverner toute seule comme une grande, et nique-toi, les Républicains, vous aurez disparu. Ce serait con quand même que les Républicains se retrouvent à être obligés de faire alliance avec ce qui reste de Renaissance dans l'opposition à Marine Le Pen. Pour dire, oh, quand même, ce serait dommage de désobéir au traité européen. Bah, attends, c'est trop tard, connard, c'est toi qui l'as proposé maintenant. Non, mais tu vois. Est-ce qu'ils ont vraiment peur d'une dissolution, les Républicains? Bah, franchement, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, les mecs? Au fond de toi, est-ce que tu crois que les LR sont un parti voué à disparaître? Non, mais les partis, ça apparaît pas et ça disparaît pas comme ça en claquant des doigts. C'est plus compliqué que ça. Les Républicains, c'est un parti très ancré localement, qui ont beaucoup de mairies, qui ont l'Association des maires de France, qui ont des régions, des départements, qui vont continuer à exister. Hein. Est-ce qu'ils ont vocation à continuer à être un petit parti pivot d'une Assemblée nationale composite? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont redevenir le grand parti de la droite et du centre qu'il a été à une époque? Non. Ça, j'y crois pas. Ou en tout cas, pas dans les 10-20 ans qui viennent. Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu la naissance du macronisme politique qui a un peu changé la donne, quand même. Après, est-ce que le macronisme politique va survivre à Macron après 2027? Je n'en sais foutre rien. Mais c'est quoi le LR politiquement parlant à part des faiseurs de rois faux? Hein? Pourquoi faux? Tu veux dire c'est quoi l'identité politique des Républicains? C'est une excellente question, je passe mon temps à la poser depuis 6 ans maintenant. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'interviewer un Républicain, je lui pose la même question. C'est quoi votre identité politique? Vous avez quoi comme espace politique? Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, j'arrive toujours pas à comprendre. Je cherche, hein, mais je comprends pas. Il y a des subtilités, je te l'accorde. Mais encore une fois, il y avait des subtilités jusqu'à ce qu'ils commencent à nous dire qu'ils veulent désobéir au traité européen. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais répondu, bon bah c'est pas compliqué, le RN ils sont eurosceptiques, ils veulent sortir de l'euro, ils veulent sortir des traités européens. Les Républicains, c'est un parti historiquement européiste qui a construit l'Union européenne, qui est pour le respect de l'état de droit européen, etc. Aujourd'hui, tu me reposes la même question, j'ai envie de te dire, bah les Républicains, maintenant ils veulent sortir des traités, alors plus évident, les Républicains, ils sont pour le respect des droits. Bon, maintenant ils veulent sortir de l'AME. C'est-à-dire, c'est quand même eux qui ont créé le défenseur des droits. Les mecs, en 2008, ils créent le défenseur des droits. En 2023, ils te disent faudrait qu'on arrête de respecter les droits de l'homme quand même. Hein. Les gars, mettez-vous d'accord en fait, je veux bien. Même chose entre le PS et la France Insoumise et ils sont dans la même alliance. Ouais, je te l'accorde. Mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que le PS, il est dans l'opposition affirmée à Emmanuel Macron. Il n'est pas dans la tentative de négocier avec Emmanuel Macron un éventuel accord de gouvernement centre-gauche, tu vois, pas du tout. Alors que les Républicains, ils sont dans un entre-deux. Est-ce que Sarko Premier ministre, ce serait pas une solution pour Macron? Si, mais ça paraît impossible parce que Nicolas Sarkozy, il a un agenda judiciaire. Il est renvoyé devant les tribunaux dans plusieurs affaires, il a été condamné, même s'il a fait appel ou qu'il s'est pourvu en cassation. Sarko, là, je suis désolé, c'est juste pas possible en fait. C'est quoi l'idéologie, la mouvance politique de Liot? J'arrive pas à comprendre ce mouvement tellement il est hétérogène. Il n'y en a pas. Regarde mon émission de Backseat d'il y a 3 semaines. J'ai interviewé Olivier Servat et Charles de Courson. Tu verras Olivier Servat essayer d'expliquer l'identité politique de Liot, tu vas comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Non, mais c'est vrai, je manque pas de respect à Liot en disant ça. Liot est un groupe hétéroclite, clitoridien, non, hétéroclite, pardon, de l'Assemblée nationale qui brasse un peu à droite, un peu à gauche des gens au profil très différent. Il y a des régionalistes, il y a des élus corses, il y a des élus d'outre-mer, il y a des élus des transfuges de la gauche, des transfuges de la droite. Ils sont plutôt. Allez, disons que ce qui les rassemble, c'est d'être. Très girondin. Bon, une fois que t'as dit ça, t'as pas dit grand-chose. Plutôt critique de Macron, pour la plupart d'entre eux. Mais bon, une fois que t'as dit ça, t'as pas dit grand-chose. Ouais, à part ça, ils ont deux bras, deux jambes. Ils sont composés à 70% de flotte. Non, je sais pas. Question de Noob qui découvre la chaîne. Comment aujourd'hui, quand on veut se réintéresser à la politique, avoir une vision claire des identités de chaque parti? J'ai l'impression, avec ce que tu dis, que tout le monde fait du marchandage et prend à droite et très à droite et peu à gauche. En fait, tu peux pas avoir de vision claire des identités de chaque parti parce que tu as une différence, et c'est normal, entre les identités proclamées par les partis, les identités projetées sur les partis et les identités effectives des partis une fois qu'ils gouvernent. Donc c'est normal qu'il y ait toujours un débat. Il y a toujours un débat sur l'identité des partis. Voilà. Et c'est pas grave. Liot, c'est juste des inclassables qui se réunissent pour avoir plus d'impact. Ouais, c'est ça. Ils sont. C'est quoi Girondin? Oui, Girondin, c'est décentralisateur. Ils sont pour la décentralisation, plus de pouvoir au niveau local. Et ils sont parlementaristes. Oui, ils sont parlementaristes de fait, oui. Oui, pardon, le girondisme, ça s'oppose au. Oh putain, je suis fatigué. Ça s'oppose au. Le truc, la révolution, la machin. Au jacobinisme, voilà, c'est ça, les jacobins. Les jacobins sont centralisateurs, les girondins sont décentralisateurs. Voilà. C'est une opposition entre écoles de pensée du niveau d'autonomie des territoires dans la politique qu'on peut mener et dans l'affirmation des identités régionales, etc. Voilà. Donc les jacobinistes sont décentralisateurs. C'est c'est des gens qui veulent que la même loi s'applique absolument à partout dans tous les territoires de la même manière. La France insoumise, ouais, par exemple. La France insoumise, historiquement, est plutôt jacobiniste. Jacobine, pardon. Le PCF aussi. L'extrême droite aussi, historiquement, est plutôt jacobine. Les LR aussi, hein, les républicains, les gaullistes, historiquement, voilà. Les Girondins, tu vas les retrouver dans le centre, historiquement, l'UDF, t'es assez girondine. À gauche, évidemment, les lois de 82 sur la décentralisation, c'est le PS. C'est l'idée d'unité aussi pour les jacobins. Ah bien sûr. Ah oui, non, totalement. ELV, ouais, les écolos sont historiquement décentralisateurs. Oui, historiquement. T'as l'idée d'unité pour les jacobins. Oui, bien sûr, les jacobins sont dans une unité d'unité et d'affirmation de la France comme d'un espace unitaire, mais aussi d'égalité. Puisqu'on parle des Girondins, je vous propose qu'on aille regarder du côté de la naissance d'un nouveau parti politique quand même. C'est pas tous les jours qu'on a des nouveaux partis politiques qui naissent dans ce pays. Ah ! À force de parler de la mort des partis politiques, on regarde pas les partis politiques qui naissent. Il y a un parti politique qui est né, dis donc, samedi dernier. Utile. Non, Chafaud, je suis désolé, je vais pas parler d'utile. On a déjà reçu Olivier Servat sur le plateau de Backseat pour parler d'utile. C'est Bernard Cazeneuve, dis donc. Regardez, il est là. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. Bernard Cazeneuve qui a lancé samedi dernier, à Créteil, un nouveau mouvement, un nouveau parti qui s'appelle Convention. La Convention. Bernard Cazeneuve qui souhaite relever le flambeau de la gauche non NUPES. Ce qui est intéressant parce que ça, on va lire l'article, mais ça amène à s'interroger sur là aussi l'espace politique qui existe. Ça amène à s'interroger sur l'avenir de la NUPES. Et si on en juge par la quantité de messages énervés venus de la gauche sur Twitter, visiblement ça fait peur, l'initiative de Cazeneuve. Parce qu'il y a un risque que Cazeneuve réussisse à grappiller quelques précieuses voix qui pourraient être utiles à la NUPES pour éventuellement peut-être remporter une élection. Et ça, on les sent fébriles, les gens de la NUPES. L'ancien Premier ministre a rameuté dans le Val-de-Marne toute la famille socialiste anti-NUPES pour poser les bases de la Convention, son nouveau mouvement, avec en ligne de mire les européennes de l'an prochain et la présidentielle de 2027. Alors, qu'est-ce qui c'est que ce truc ? Chemise blanche impeccablement repassée et tailleur bleu en lin. Maurice et Agnès se sont mis sur leur 31. Mariage, baptême, fiançailles, rien de tout ça. Ce samedi 10 juin, ce couple de sexagénaires est simplement venu assister à ce qu'il considère comme un événement politique de grande importance, le lancement de la Convention, le mouvement de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. C'est un véritable homme d'État, il incarne le sérieux. Il est l'homme qu'il manquait à gauche, explique Agnès en ajustant ses lunettes de soleil. Comme l'ancienne professeure, ils sont presque 2000 à s'agglutiner sous le soleil de Créteil dans le Val-de-Marne en ce début de week-end pour ce grand raout de l'amicale des socialistes anti-LFI. Devant le palais des sports Robert Houbron, on se salue chaleureusement entre des vieux camarades. « Ah, t'es venu toi ? Comment ça va depuis le temps ?» peut-on entendre devant les deux food trucks garés là-haut dans la longue file d'attente avant d'entrer dans la salle. Dans le gymnase, on s'installe sagement au son de « L'amour, l'amour, l'amour » de Marcel Mouloudji, sur des chaises en plastique qui entourent une scène sur laquelle trônent deux drapeaux français et européens. Dans les places réservées des deux premiers rangs s'installe tout ce que la gauche compte aujourd'hui d'anti-NUPES. Ici, l'ex-patron du PS Jean-Christophe Cambadélis. Là, l'ancienne concurrente d'Olivier Faure au dernier congrès du PS Hélène Geoffroy. Tout à coup, la musique change. Bernard Cazeneuve et l'ancien président de la République François Hollande, invités d'honneur du jour, entrent sous les applaudissements nourris de la salle sur le refrain du pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. Pardon, mais j'aime beaucoup Laurent Voulzy, c'est pas le sujet, mais c'est un peu marqué générationnellement Laurent Voulzy. C'est-à-dire que déjà qu'on leur reproche d'être des vieux, il y a un côté, ils assument de pas être jeunes, quoi. C'est pas grave, hein. Pourquoi pas. C'est pas grave. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes, dit la chanson. À l'exercice du bain de foule, François Hollande est bien plus à l'aise que l'homme du jour. Tu m'étonnes. François Hollande, il sait faire des maris. Excuse-moi, non, j'ai vu Marie dans le chat. François Hollande, il sait faire des bains de foule. Il a été président de la République, il a été premier secrétaire du PS pendant 20 ans. François Hollande, les bains de foule, il connaît. T'inquiète. Bernard Cazeneuve, il est jamais aussi à l'aise que devant un tableur Excel. Donc, lui, si tu veux, les bains de foule, je sais pas. Bernard Cazeneuve, à mon avis, il se met du gel hydroalcoolique sur les mains après avoir serré une seule main, tu sais. c'est pas pour être méchant avec Bernard Cazeneuve que je dis ça, mais il renvoie un peu cette image de notaire de province. Bon, pourquoi pas. Cazeneuve assis débute sur scène une succession de prises de parole, presque toujours pour tacler la stratégie de conflictualité mise en place par les insoumis depuis le début du quinquennat. À Créteil, l'expression « le bruit et la fureur » pour qualifier LFI a particulièrement la cote. Le bruit et la fureur, ça fait référence à une expression qu'avait utilisée Jean-Luc Mélenchon en 2013-2014, de mémoire, dans lequel il assumait la conflictualité, qui était la nouvelle stratégie du Parti de gauche et de la France insoumise, naissante. Il avait dit « Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas ». Fin de citation. Merci Jérôme pour les 5 subs offerts au chat, c'est très généreux de ta part. Merci Jérôme, merci beaucoup. Le maire de la ville, Laurent Catala, se prononce, tout comme la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, dans un message vidéo. Invité à participer à une table ronde sur l'Europe, François Hollande explique ne pas être là que par amitié, mais aussi parce que les deux hommes partagent la nécessité de reconstruire une grande force capable de construire une fois encore la gauche au pouvoir, assure-t-il. François Hollande l'avait expliqué sur le plateau de Baxit, cette volonté du retour de la gauche au pouvoir, etc. La gauche telle qu'elle s'est constituée autour de LFI ne sera pas capable de donner la perspective d'une gauche au pouvoir, prédit l'ancien président de la République avant d'appeler de ses voeux une liste socialiste social-démocrate pour les prochaines européennes. On en reparlera parce que c'est pour ça que Bernard Cazeneuve sort du bois maintenant. C'est parce qu'il a envie d'affirmer et de peser son véritable poids à l'occasion des élections européennes. Sur scène, un groupe de jeunes, peu nombreux ce samedi, s'est installé. Bon, Libé qui note que... voilà quoi. Si tu voulais des jeunes, c'était pas à Créteil qu'il fallait être samedi. Bernard Cazeneuve veut commencer. On me disait que vous aviez disparu, que vous étiez tout juste bon à figurer sur des photos sépia d'une période révolue. Débute-t-il avec, avec ironie. Puis très vite, une première pique adressée au premier secrétaire PS, du PS Olivier Faure, qui croit peu en l'initiative du Premier ministre. Il m'arrive d'entendre certains dire que nous constituerions une impasse, mais ce n'est pas une impasse que je vois devant nous, c'est une avenue large pour ne pas dire un boulevard scandale. Bernard, ça c'est la phrase qui a le plus fait réagir. Hein. Bernard Cazeneuve voit devant lui un boulevard. Moi j'ai envie de dire je veux bien, mais il y a quand même personne dans le boulevard. C'est pas évident ça. Tout au long de son discours, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, qui ne sont jamais nommés, en prennent aussi pour leur grade. Parfois, c'est la ligne politique qui est attaquée. Je cite « Ceux qui ont la tentation de la stratégie de la confrontation sur tout et à chaque instant ne réaliseront ni l'union de la gauche ni l'unité des Français. La seule unité à laquelle ils contribueront est celle de la droite et de l'extrême droite pour le plus grand malheur de notre pays », critique-t-il par exemple. Là, pour le coup, on va en parler. Mais moi, j'ai un vrai problème avec ce champ argumentaire-là. De Bernard Cazeneuve, j'ai l'impression qu'en disant ça, il fait preuve de fébrilité. C'est-à-dire que quand il dit « Ouais, Jean-Luc Mélenchon, c'est la fureur et le fracas, c'est le tumulte et le chaos, blablabla », en fait, il parle de Jean-Luc Mélenchon des années 2012-2017. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, depuis la naissance de la NUPES, il a justement changé de fusil d'épaule. Il s'est beaucoup assagi, Jean-Luc Mélenchon. Pas surtout. Je vous l'accorde. Il reste Jean-Luc Mélenchon, faut pas déconner. Mais la ligne de la France insoumise s'est assagie. Sur l'Europe, sur la politique économique, sur les alliances. Alors, à l'Assemblée nationale, c'est pas très visible. La France insoumise reste, à l'Assemblée nationale, très caricaturale, en tout cas dans l'image qu'on en retient le plus. Et ça, c'est vrai que ça fait fuir beaucoup d'électeurs potentiels qui, effectivement, voient dans la France insoumise un parti qui n'est pas crédible et qui n'est pas capable de gouverner, etc. Ceci étant, sur le fond, le programme de la NUPES a montré la capacité pour la France insoumise d'accepter des compromis. Je trouve, hein. Assagi sur l'Europe, bah ouais, quand même. Non, mais quand même. Enfin, je veux dire... Jean-Luc Mélenchon 2012, il t'explique qu'il faut sortir des traités européens. 2017, il te dit qu'il faut renégocier les traités ou à défaut, faut en sortir. Mais seulement à défaut. 2022, il parle plus de sortie des traités parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, etc. Voilà, les choses ont quand même changé. Et il te dit qu'il faut négocier avec les autres forces de la gauche une éventuelle liste aux élections européennes. Quand même, ça a changé. Moi, j'ai pas l'impression que ce sont des détails. Ça a évolué. Il y a un problème de démocratie au sein de la France insoumise. Ah non, mais alors ça, clairement, ça, la France insoumise fait partie de ces partis politiques non démocratiques qui ont un leader charismatique à la tête, etc. Ok, ça, on l'a déjà analysé mille fois. Il y a Macron, il y a Le Pen, il y a Mélenchon. C'est un mode de fonctionnement spécifique, etc., très contemporain. Mais indépendamment de ça, moi, je trouve qu'LFI, en s'ouvrant aux autres partis de la gauche, sur les alliances, putain, mais regardez sur les alliances. Regardez sur les alliances. La France insoumise, le parti de gauche, puis le Front de gauche, puis la France insoumise, ils avaient un principe cardinal pendant 10 ans qu'ils ont hurlé dans tous les micros qu'on leur tendait, c'était « Jamais, jamais, jamais nous ne ferons d'alliance avec les socialistes. » Regardez les interviews que j'ai faites sur le plateau de Backseat l'année dernière. Regardez les insoumis. Réécoutez-les, vous allez les voir. Combien de fois ils nous ont dit « Jamais de la vie, on fera d'alliance avec les socialistes. » Morale de l'histoire, 2022, naissance de la NUPES, alliance avec les socialistes. Bon, faut croire que les conditions et les contextes politiques a évolué de manière à ce que la France insoumise accepte de se dire que finalement, peut-être que l'alliance, ça a du bon. Ça permet d'avoir 80 députés à l'Assemblée au lieu de 17, par exemple. Ce n'est pas tout à fait négligeable. Allié au PS en tant que vassal. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On va en reparler, hein, mais je suis content qu'on en parle parce que je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt les socialistes qui ont changé? Alors peut-être. Non, mais peut-être que les choses ont évolué. Les socialistes ont fait un droit d'inventaire après 2017. Dès 2018, quand Olivier Faure a pris la tête du Parti Socialiste, il a obtenu... Enfin, il a fait un travail d'inventaire du quinquennat de Hollande. Il y a eu un retour critique qui a été fait, etc. etc. Bon, bah, visiblement, ils sont devenus fréquentables aux yeux d'LFI. Suffisamment pour qu'ils fassent un accord avec eux. Non, mais à tel point que maintenant, il y a même des insoumis qui réclament des accords... sur Twitter. Moi, ça me fait marrer parce que historiquement, c'est rigolo. Après les 10 ans qu'on a vécu où LFI disait plutôt crever que de faire un accord avec les socialistes, maintenant, c'est plutôt je vous fume la gueule si vous faites pas d'accord avec nous. Ah oui, ça a switché vite, mais maintenant, faut se faire la nouvelle méta, du coup. Donc, du coup, tout ça pour en revenir à Bernard Cazeneuve. Je trouve que faire une présentation caricaturale de la France insoumise pour Bernard Cazeneuve, c'est la preuve d'une fébrilité face à la nouvelle donne politique qu'est la NUPES. Est-ce qu'on peut imaginer les socialistes de Macron suivre Cazeneuve quand Manu sera parti? Alors attends, ça on va y venir parce que justement, j'ai de la suite dans les idées et toi aussi, visiblement, on va voir, tu vois. J'en étais où? Tout au long de son discours, Jean-Luc Mélenchon et les insoumis qui ne sont jamais nommés prennent aussi pour leur grade, parfois pour la ligne politique qui est attaquée. Ceux qui ont la tentation de la stratégie de la confrontation surtout et à chaque instant ne réaliseront ni l'union de la gauche ni l'unité des Français, la seule unité à laquelle ils contribueront est à celle de la droite et de l'extrême droite pour le plus grand malheur de notre pays, critique-t-il par exemple. Parfois, c'est la personnalité du tribun, qui est égratignée en creux, comme lorsque Cazeneuve prend soin de rappeler que l'initiateur de la Convention, lui-même, ne se prend ni pour un César, ni pour la République. Évidemment, c'est une pique à Jean-Luc Mélenchon, on l'aura compris. À Créteil, Bernard Cazeneuve est venu poser une pierre pour la suite. L'ancien Premier ministre donne un côté personnel à son discours. Il rappelle les épreuves auxquelles il a été confronté, notamment durant son passage au ministère de l'Intérieur, mais aussi qu'il a occupé de nombreux mandats d'élus locaux. Il était ministre de l'Intérieur pendant les attentats de 2015, qui a vraiment pas dû être marrant à vivre, on lui accorde. Tac, tac, tac. Aussi bien pour apparaître comme un homme d'action, mais aussi pour tordre le cou à l'idée qu'il aurait peur de se présenter aux élections. Il m'arrive d'entendre certains dire que j'aurais à l'égard des électeurs une prévention naturelle. Des élections, une prévention naturelle. J'ai été élu 11 fois. Quand on a été candidat 12 fois à une élection, rien dans le code électoral n'empêche de l'être une 13e fois, affirme-t-il. Le message est clair, l'ancien député de la Manche pense à 2027. Mais ce 10 juin n'est pas encore une annonce officielle, prévient Cazeneuve devant la presse après son long discours. L'histoire de la candidature présidentielle ne se pose pas tant qu'on n'a pas encore de force autour de soi. Ce serait comme vouloir gravir l'Himalaya avec des moufles, souffle-t-il. Ah, oui, d'accord. En même temps, je me permettrai de rappeler à Bernard Cazeneuve qu'il y en a un autre qui s'est lancé dans la course à l'Elysée alors que personne n'y croyait et qui a réussi à être élu un an plus tard. François H, pour ne pas le nommer. Avant 2027, il y a les européennes de juin 2024. Comme Hollande, l'ancien ministre de l'Intérieur veut une liste social-démocrate. Toutefois, prévient-il, cela ne veut pas forcément dire que la Convention présentera forcément sa propre liste. Tout dépendra de la décision du Parti Socialiste qui n'a pas encore officiellement fermé la porte à une alliance avec ses partenaires de la NUPES. Si le PS part seul, Bernard Cazeneuve se dit prêt à voir s'il y a un rassemblement possible pour faire le plus gros score possible. Je ne suis pas un diviseur, plaide-t-il. En revanche, si le Parti Rose stoppe avec le mouvement insoumis, la question d'une liste à part se posera, explique-t-il, avant de quitter l'antre de l'Union Sportive de Créteil Handball. Club qui a pour devise un passé glorieux, un avenir ambitieux. Tiens, tiens. J'adore. Donc en gros, la balle est dans le camp d'Olivier Faure. Soit Olivier Faure fait alliance avec les Insoumis pour les européennes, auquel cas Bernard Cazeneuve présentera sa propre liste. Soit Olivier Faure part sans les Insoumis pour les européennes, auquel cas Bernard Cazeneuve est prêt à négocier avec Olivier Faure un soutien à sa liste. Question, est-ce qu'Olivier Faure a envie / besoin du soutien de Cazeneuve pour les européennes? Je pense pas. Je pense pas. Voilà. Je ne suis pas diviseur. S'il y a des alliances de gauche aux européennes, j'y vais pas avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis pour le rassemblement. Donc, s'il y a rassemblement, vous pouvez être sûr que je serai pas là. J'irai de mon côté. D'accord. Morale de l'histoire. J'en sais rien. On verra dans les années qui viennent. Mais Bernard Cazeneuve essaye, tout comme on l'a vu la semaine dernière, Carole Delga, Michael Delafosse, Nicolas Maillard-Rossignol, de faire renaître de ses cendres un parti socialiste, social-démocrate, social-libéral, deuxième gauche, rocardien, appelez ça comme vous voulez, bref, une gauche qui ne soit pas de la NUPES, parce que eux voient dans la NUPES une soumission à Jean-Luc Mélenchon et à sa stratégie de la conflictualité, de la radicalité, etc., etc. La question qu'on peut être en droit de se poser, c'est la même que pour les Républicains, c'est quoi votre espace politique, les gars? Pour le coup, je pense qu'il y a un peu plus d'espace politique possible pour cette partie-là de la gauche que pour les Républicains à droite. Je m'explique. Les Républicains, ils sont en train de se faire bouffer par un double phénomène de grignotement. C'est d'un côté le macronisme qui vire de plus en plus à droite, et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui se dédiabolise de plus en plus. Donc les Républicains, ils ont un problème d'identité politique parce qu'ils sont en train de se faire écraser entre l'enclume et le marteau. Du côté de la gauche, c'est pas tout à fait pareil. Puisqu'on a un Emmanuel Macron qui mène une politique de gouvernement de plus en plus à droite, et de l'autre côté, on a la NUPES, qui pourrait avoir tendance pour beaucoup d'acteurs, et beaucoup d'électeurs potentiels, à être un gauchissement du Parti Socialiste et des alliés de la NUPES. Créant peut-être un espace... En tout cas, c'est ce qu'appelle de ses voeux Bernard Cazeneuve, un espace qui allierait les déçus du macronisme, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'aiment pas non plus Emmanuel Macron, parce qu'ils trouvent qu'Emmanuel Macron, bon, il était un peu centriste en 2016-2017, mais enfin là, c'est franchement un président de droite, et qui ne sont pas prêts à voter pour Mélenchon, parce que la NUPES, quand même, il y a un moment, ça va 5 minutes. Donc... Bernard Cazeneuve croit en cette étoile-là, de se dire la NUPES est vouée à l'échec parce que Mélenchon, parce que sa stratégie n'a pas d'avenir, parce que le populisme de gauche est en train de crever partout en Europe, il n'y a pas de raison que ça survive en France, donc créons l'espace politique de cette social-démocratie, etc. Hidalgo a fait 2% à la présidentielle. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Vous vous doutez bien que c'est pas votre score à une élection présidentielle qui détermine votre avenir politique. Et heureusement pour Jean-Luc Mélenchon. Pardon. Donc, de la même manière, il y a des espaces politiques qui se créent et d'autres qui meurent. C'est normal. Pauque Mitterrand, meilleur exemple. Donc voilà. Imaginez, scénario. Emmanuel Macron est contraint de dissoudre l'Assemblée nationale. Ok. La NUPES. Présente des candidats dans plein de circonscriptions. Et Bernard Cazeneuve présente des candidats dans plein de circonscriptions. Avec son nouveau parti, là, la convention. La gauche non-UPES. On arrive à l'Assemblée nationale avec 250 députés NUPES. Et Bernard Cazeneuve qui a 35 députés. Du coup, le Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, est obligé de faire un accord de gouvernement avec Bernard Cazeneuve s'il veut réussir à gouverner quoi que ce soit. Et du coup, Bernard Cazeneuve fait monter les enchères. Non mais imaginez, imaginez. Et on aura des belles émissions Backseat. Hein. On aura des belles émissions Backseat. Pas mal comme scénar. Ah bah attends. Mais la NUPES, c'est les socialistes, justement, non, entre autres. Oui, mais tu sais que ça bouge. Les identités politiques, ça évolue avec le temps. Les socialistes d'hier ne sont pas les socialistes d'aujourd'hui. Heureusement pour Mélenchon. Heureusement pour Macron. Tu vois, Parti Socialiste, il fut un temps où c'était un très grand parti où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde dedans. Et des gens très différents. Donc en tout cas, Bernard Cazeneuve croit en sa bonne étoile, il croit en ce scénario de la renaissance, en gros, de l'équivalent des sociaux-démocrates allemands. Il pense que le PSOE s'est effondré en Espagne, c'est pas pour rien. Que la stratégie à la Syriza, à la Podemos, etc., ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, il n'y a pas de raison qu'LFI continue à fonctionner en France. C'est un pari sur l'avenir, c'est une analyse. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il pense que LFI ne survivra pas à Mélenchon. Podemos s'est effondré aux dernières élections en particulier. Bah oui, oui, oui. Et Syriza s'est effondré en Grèce, etc. LFI s'en tire très bien sans Mélenchon. Il n'est pas encore parti, donc... Donc voilà, Bernard Cazeneuve espère peser avec cette ligne-là pour... Puis par ailleurs, il y a aussi un scénario dans lequel... Il y a aussi un scénario dans lequel Emmanuel Macron fait un accord de gouvernement avec les Républicains, que du coup des figures de la Macronie décident de se barrer à ce moment-là en disant bah, « c'est trop pour moi, je me casse ». Je rejoins Cazeneuve, et avec Cazeneuve, on fait une liste aux européennes, et on fait les quelques pourcents qui nous permettent d'exister, et ainsi de suite, quoi. Donc... Convention vise un public de vieux qui votait socialiste alors que LFI essaie de séduire les jeunes. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. La convention de Bernard Cazeneuve essaye de séduire effectivement un électorat plus âgé qui a connu le Parti Socialiste du passé. Là où la France Insoumise, effectivement, séduit davantage chez les jeunes, et notamment chez les jeunes qui se sont mis à s'intéresser à la politique au moment de la loi travail, donc qui ont un rapport très conflictuel au Parti Socialiste. Donc c'est peut-être effectivement un effet de génération, c'est pas faux, c'est intéressant ce que tu dis. Et vu que les jeunes votent pas et que les vieux votent, Bernard Cazeneuve a plus d'avenir. Non, je déconne, faut pas. Après, Bernard Cazeneuve a un intérêt stratégique à ce que la NUPES et en particulier la France Insoumise est une mauvaise image dans l'opinion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en fait des caisses sur la caricature en disant c'est des tarés, c'est des... ils ont le couteau entre les dents, ils sont fous, etc. Jean-Luc Mélenchon, machin, il mange des enfants au petit-déj et tout. Bernard Cazeneuve a donc un intérêt à ce que la France insoumise soit caricaturale. Donc, plus ça gueule dans l'hémicycle, plus Louis Boyard il en fait des caisses, etc., plus Bernard Cazeneuve il est content. Parce que ça valide sa stratégie. Parce que ça lui rapporte des électeurs potentiels. Déçu du macronisme, le cœur à gauche, mais clairement pas insoumis. Twitter fait pas une élection. C'est certain que Twitter fait pas une élection. Et heureusement. Parce que toutes les insultes que se prend Cazeneuve de la part des militants plus à gauche que lui, c'est du carburant pour Cazeneuve. Et il a intérêt à ce que ça continue le plus longtemps possible. D'où le fait que si ça se trouve, les twittos qui insultent Bernard Cazeneuve, en fait, c'est des militants pro-Cazeneuve qui sont déguisés en militants insoumis pour offrir une image la plus caricaturale possible des insoumis et pour faire fuir un maximum d'électeurs dans les bras de Cazeneuve. Et pour que les déçus du macronisme viennent, il faudrait déjà qu'il y ait un truc à leur proposer. Là, ils les confirment juste dans leur vote Macron. Qui ça ? Cazeneuve ? Bah non. Bof, l'injonction à la respectabilité. De qui ? De la part de qui ? Ah bah Cazeneuve, il joue à fond là-dessus. Hein. Justement, Cazeneuve, il surjoue son côté notaire de province, costume, cravate, sérieux au possible, le mec est incapable de rigoler. Il paraît que la dernière fois que Bernard Cazeneuve a rigolé, c'était en mars 1983. Tout le reste après, c'était mâchoire serrée, droit devant. Il paraît qu'il dort avec une cravate la plus serrée possible. Bon, bref, je rigole, mais évidemment, il surjoue ce côté ultra sérieux pour créer la différence avec Mélenchon. Mélenchon, c'est la colère et le fracas. Moi, je serais le flegme éternel, absolu. C'était quoi la blague de 1983 pour s'en aller rire? Non, non, c'était pas une... Enfin, c'est juste qu'il y a très longtemps, c'est tout. J'ai inventé au hasard la date. Donc voilà où on en est. C'est quoi l'avenir de Cazeneuve? J'en sais rien. Est-ce qu'il va faire un score? Je sais pas. Est-ce qu'il va effectivement réussir à redonner naissance à une social-démocratie en France? J'en sais rien. On verra l'évolution. Ça dépend beaucoup de l'évolution du macronisme et de l'évolution de la NUPES. Pauvre Cazeneuve, les cartes sont pas vraiment entre ses mains à lui. Je repose ma question que propose Cazeneuve, quelle politique veut-il mener ? De ce qu'il a dit dans son discours de samedi, il a donné quelques exemples pro-européens en faveur d'une politique de l'offre, donc pour les aides aux entreprises, pro-nucléaire. Jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on a. C'est quoi la différence avec Anne Hidalgo à la présidentielle ? C'est très très proche d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Hein. C'est très 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 proche d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Mais au demeurant, c'est normal. Anne Hidalgo, on sait qu'elle n'est pas proche d'Olivier Faure. Hein. Anne Hidalgo, elle est plus proche de Carole Delga que d'Olivier Faure. Hein. C'est pas étonnant. De la social-démocratie. Ouais, de la social-démocratie, complètement. C'est de la social-démocratie. Regardez les sociaux-démocrates en Allemagne, bah voilà, c'est ça. Pourquoi Cazeneuve ferait mieux qu'Hidalgo? Parce que les opinions bougent et évoluent. Et ça dépend beaucoup. Parce qu'Hidalgo, encore une fois, Hidalgo, elle a été candidate à une élection présidentielle, dans un contexte très particulier. Celui de la réélection d'Emmanuel Macron, etc. Cazeneuve, il croit en un mouvement de plaque tectonique d'ici à 2027. Et des mouvements de plaque tectonique, on en a déjà connu dans ce pays. Donc, voilà. Est-ce qu'il sera l'homme de la situation? Hidalgo, elle subit une haine immense des Parisiens aussi. Bah, en fait, non. Enfin, en fait, non, j'en sais rien. C'est juste que quand tu regardes les scores aux élections municipales, Hidalgo, elle a été réélue assez largement. Là aussi, hein, faut pas confondre Twitter avec l'opinion publique des Parisiens. Hein. Des franciliens. Ouais, de certains franciliens, ouais. Encore une fois, hein, faudrait. Enfin. On se revendique socialiste, mais qu'on a une politique de meuf de droite, faut pas s'étonner de se faire détester. Bah, elle a pas vraiment une politique de meuf de droite, en tout cas pas à Paris. Sinon, elle serait pas détestée par la droite parisienne. C'est quoi la social-démocratie? Bah tu peux regarder l'interview que j'ai faite de François Ruffin qui essaye de la définir, de François Hollande qui essaye de la définir aussi. Hidalgo de droite. Non mais c'est ça. Fait des pistes cyclables, des HLM, veut limiter la circulation sur le périph, construit des logements sociaux. Tout est de droite sauf Poutou pour certains. Ah oui, bien sûr, mais il y en a d'autres pour qui tout est de gauche sauf Zemmour. Hein. Bah, c'est Éric Zemmour lui-même à la présidentielle qui disait que Marine Le Pen est de gauche. Hein. Bon, voilà, ok, d'accord. S'il y a des gens qui ont cette grille de lecture-là, pourquoi pas? Enfin, chacun la sienne. Hein. Ciotti a dit que Libé était un journal d'extrême gauche, ça se pose où? Ben, j'en sais rien. Mais bon, enfin, c'est pas très important. Après, LFI de droite, faut y aller quand même. Ah bah. Demande à une partie du NPA, tu verras ce qu'ils vont te répondre. Oui, mais lequel? Certains trottent trouvaient la fille de droite, oui. Ah bah, elle est trotskiste, oui, bah oui. LFI, dans leur meeting, il y a des gens qui secouent des drapeaux bleu, blanc, rouge, hein, quand même. Ça, pour un trotskiste? C'est juste pas possible. Écoutez Thomas Legrand sur le trotskisme. Ah ouais, carrément, trop bien. En quatre épisodes en plus, hein, sur l'histoire du trotskisme. Pourtant, Mélenchon n'est-il pas un lambertiste? Un ancien. Donc voilà. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous rappelle que jeudi à 18h, il y a une émission spéciale en partenariat avec la Banque de France. Je vais interviewer le gouverneur de la Banque de France et on va parler, de politique monétaire et de lutte contre l'inflation. L'occasion d'en apprendre beaucoup, surtout que c'est particulièrement d'actualité. C'est pour ça qu'on l'a fait, cette émission. C'est un partenariat, mais c'est particulièrement d'actualité, la question de la lutte contre l'inflation. Partout en Europe, mais en France en particulier. Donc on va parler de politique monétaire, on va parler du rôle de la Banque de France, à quoi ça sert, tout ça, tout ça. Je suis content de refaire cette émission parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un partenariat avec une institution. Rappelez-vous, j'avais fait des partenariats avec le Parlement européen par le passé, on avait fait la Caisse des dépôts, on avait fait la Cour des comptes. Donc je vous avais expliqué plein de trucs, j'avais interviewé plein de gens. Mais depuis la présidentielle, là, mine de rien, entre 2022 la présidentielle et 2023 la réforme des retraites, j'ai fait un tunnel où j'ai pas eu l'occasion de vous présenter des institutions méconnues. Donc du coup, voilà, je serai à la Banque de France, oui, avec plusieurs centaines de personnes. On sera directement à la Banque de France. Une interview spéciale sur Twitch. Et ça va être cool. Il est assez bon, le gouverneur de la Banque de France. Écoute, on verra. J'espère qu'il va être pédagogue. Parce qu'on va pas se mentir, la politique monétaire, faut s'accrocher un peu. C'est dans le premier arrondissement. Ouais. Est-ce qu'il y a un replay quelque part pour la Cour des comptes ? Sur YouTube, ouais, normalement. Normalement, essaye. Jean Massier, Cour des comptes. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est ? Le replay. Ou alors c'est sur la chaîne de la Cour des comptes. Attends. Est-ce que ce serait pas directement sur la chaîne de la Cour des comptes ? Sur le YouTube. Je sais plus. Où est-ce qu'on l'a foutu ? Non, ça a pas l'air d'être sur la chaîne de la Cour des comptes. Et non, du coup, cette semaine, il n'y a pas d'émission Backseat. Non, non, cette semaine, il n'y a pas d'émission Backseat. Les deux dernières émissions de la saison de Backseat auront lieu les 21 et 29 juin. C'est pas le 21, c'est le 22, du coup. La BNF, j'espère que le chat va se renseigner pour cette interview. Ah ouais, bah déjà, s'il commence par pas l'appeler BNF, la Banque de France et la Bibliothèque Nationale de France, c'est pas la même chose. Vaut mieux le savoir. Dommage, trop de risques financiers. Ah ben non, il n'y a pas d'émission Backseat cette semaine, justement parce que y a l'émission avec la Banque de France. Je vais rater les deux derniers Backseat. Bah écoute, t'auras les replays, il te restera les replays, profites-en. À part la cramer, la Banque de France, il n'y a rien à en faire. Si tu veux. Après, si ça t'intéresse de savoir ce qui se passe dedans avant de la cramer, n'hésite pas à regarder l'émission de jeudi, ça peut éventuellement être intéressant. Ce qui te donnera peut-être toujours envie de la cramer, mais ça, c'est un autre sujet. Le bâtiment est très beau. Ouais, j'y suis allé, du coup, j'ai rencontré le gouverneur il y a deux semaines. Il y a encore les réserves d'or hein, à la Banque de France. Je crois qu'il y a 2000 lingots d'or dedans. Un truc incroyable. Après les deux derniers backseats, tu pars en vacances. Non, pas directement. On verra comment je vais. Mais après le 14 juillet. Est-ce qu'il a vraiment un pouvoir de décision, le gars que tu vas interviewer ? Eh bien ça va faire partie des questions que je lui posais, notamment dans le cadre du système européen des banques centrales, parce que c'est quand même la banque centrale européenne qui gère. Je vais essayer de lui demander, ça sert à quoi et la Banque de France ? Mets-moi sur la liste le 22. Ok. Il est l'or, monseigneur. Ouais. L'émission Banque de France sera sur Twitch. Bah oui. Même que c'est pour ça qu'il n'y a pas backseat. J'ai raté les bus que l'histoire de la Banque de France. Bon, je le refais une dernière fois. Jeudi, à partir de 18h, il n'y a pas backseat ce jour-là parce que je fais une émission spéciale en partenariat avec la Banque de France, une interview du président de, du gouverneur de la Banque de France, en direct depuis la Banque de France. Voilà. Diffusé sur Twitch, rediffusé sur YouTube. Voilà. Tu penses que tu peux piquer un lingot pour backseat? Je vais essayer de négocier, mais j'y crois pas trop. Le gouverneur agit indépendamment du gouvernement? Non. Bah non. Non, la politique monétaire. Alors, aujourd'hui, elle est partagée au niveau européen, mais c'est quand même un pouvoir de l'État, la politique monétaire. Jeudi 18h, pas backseat, émission Banque de France ici. Voilà, c'est ça, Chafaud. La BNF est indépendante. La Bibliothèque nationale de France est effectivement indépendante, mais encore une fois, on ne parle pas de ça. La Banque de France, elles agissent. Alors, il y a l'indépendance de la Banque européenne qui travaille en lien avec les banques nationales, les banques, notamment la Banque de France pour la France. Et il y a un degré d'autonomie qui a été, justement, dont on va discuter jeudi. Vraiment, regardez cette émission. Parce que justement, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, il y a eu un assouplissement des traités européens. Donc, on va voir dans quelle mesure est-ce que la Banque de France peut mener une politique de lutte contre l'inflation en France. Justement, dans les modifications et les changements qui a eu lieu en Europe à l'occasion de la crise du Covid et de l'inflation depuis, il y a des choses qui sont en train de bouger et c'est justement ce dont on va parler jeudi. Vas-tu demander au gouverneur comment la Banque de France peut-elle agir d'une manière générale au-delà de l'inflation dans la zone euro? Vous savez quoi? On vous explique tout ça jeudi. Parce que là, je vais pas me lancer dans une explication de la différence entre la Banque Centrale Européenne pour l'Europe et la Banque de France pour la France. On vous explique tout ça jeudi, et oui, je lui poserai cette question. Elle sert juste à rattraper les conneries du capitalisme et à faire en sorte que tout le monde ne meure pas à cause de l'économie qui fait nimp. Ouais, encore une fois, on en parle jeudi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des bisous. On va faire un raid. Tac. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a la team du lundi. Bah oui, on est lundi. Non, mais ils sont chiants, la team du lundi. Ils jouent à quoi? First Class Trouble. Ouais. Pouf, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Tiens, il y a Defecator. Allez, on va chez Defecator. Defecator qui parle des fake news, tout ça. Slash red. Defecator underscore officiel, je crois. Non, ça s'écrit avec un A. Defecator. Hop. Non, identifiant non valide. Alors attendez, bougez pas.
On s'habille.
Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Merci d'avoir été là. Je vous envoie en raid chez Defecator qui est en train de faire une revue de presse des fake news. Defecator, un youtubeur et un streamer qui lutte contre les fake news en l'occurrence. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain à 14h pour les questions d'actualité au gouvernement. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été là, ciao, soyez sympa avec Defecator, bye bye.
On regarde Netflix et l'empathie est dégénérée.